Et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la matinée Étienne pour ce qui doit être la dernière revue de presse de cette semaine puisque nous sommes là du lundi au vendredi. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il ne fait pas trop froid. Je vois beaucoup de mentions dans le chat côté Twitch, je viens de lancer sur TikTok, bienvenue aux deux communautés. Des petites infos sur le froid. C'est vrai qu'à Paris, là, ça s'est un peu rafraîchi. Ouais. Vous allez bien? Ça va? On a une belle actu ce matin, enfin une belle actu. Bizarre de dire ça. Donc il y a beaucoup d'actu, des sujets assez intéressants, puis de beaux articles. Comment ça, le froid national? Hein? Quoi? Ça sent la fatigue et le froid? D'ailleurs, c'est marqué du lundi au samedi sur Twitch. Sur Twitch ou ça, Ariette? Sur Twitch ou ça? Sur Twitch sur ma bio? Ou sur Twitch qui parle de moi? Twitch parle de moi? Ça m'intéresse. Ok, il caille sa race. Ok, de la neige ici, ok. Dis-moi, Ariette, dans les images. C'est marqué dans les images. Alors, en fait. J'attendais une précision, ça. Quand tu dis c'est marqué sur Twitch, c'est un peu flou, c'est un peu vague. Twitch. Et donc. Dans à propos. Et à propos, c'est chez moi, c'est dans ma chaîne. Attends, fais voir. Dans ma chaîne, à propos. À propos. Fais voir. Je suis en train de me regarder moi-même. Fais voir. Bio? Dans bio? C'est dans la bio? Non, c'est pas là. Non, ça va pas être moi, ça. À propos, c'est un truc écrit par Twitch, du coup. Le programme dans à propos, je sais pas. Je pense que c'est pas moi, ça. C'est Twitch qui écrit ça. La revue de presse, c'est du lundi au vendredi, en vrai. Donc, quelqu'un me veut. Oh, Gator d'homme s'écrit salut tout le monde, un petit message pour que je sois comptabilisé comme viewer. Mais c'est quoi l'à propos? Dans ton panel sous ta bio? Ah, le vieux truc là. Ah ouais, faudrait que je réécrive ça. Il y a encore l'hebdo Étienne dedans. Ah oui. Mais c'est pas. Putain, j'ai écrit du lundi au samedi? Mais c'est un truc que j'ai écrit il y a 5 ans. Ah ouais. Ah ouais, il y a 5 ans, je promettais une revue de presse du lundi au samedi. Eh ben, alors. En plus, c'était une totale fake news. Parce que j'ai jamais fait la revue de presse régulière du lundi au vendredi, ça date de juin dernier. Avant, c'était. On en faisait le plus possible, parce qu'il y avait question pour un champion qui me prenait beaucoup de temps. Ah, c'est drôle. Mais je vous ai totalement menti, hein. Faut que je le refasse, ce truc. Ça parle de l'hebdo Étienne, une émission super sympa qu'on faisait le vendredi soir que je fais plus. Ah, c'est génial. En fait, je tiens davantage mes promesses aujourd'hui qu'il y a 5 ans, pour le coup. C'est ce que me dit mon épouse aussi. Et alors, quelqu'un disait un message trop sympa sur le chat Twitch. Mon petit message dans le chat pour être comptabilisé comme viewer, parce qu'effectivement, et tous les streamers et les streameuses françaises s'en sont rendus compte, Twitch a mis en place une nouvelle façon de comptabiliser les viewers. Donc, les stats ont baissé pour tout le monde, parce qu'en gros, il faut être actif. Tous les viewers considérés comme passifs, alors je sais pas bien ce que c'est passif, mais en gros, qui lurk. C'est-à-dire la plupart des viewers, la plupart des gens ici écoutent cette revue de presse et participent pas forcément d'ailleurs, hein. Ça se consomme un peu comme de la radio, et la plupart des gens ici consomment en écoutant, et en fait ils sont plus comptabilisés, moins, beaucoup moins. Voilà, il faut, si t'es en simple lurk, si t'as deux chaînes Twitch ouvertes par exemple, si t'écris pas, bam, c'est très très drôle. Et du coup les stats, alors je m'en étais pas rendu compte, mais hier en regardant ce que faisaient les petits copains, j'ai vu que les stats étaient vraiment beaucoup plus basses pour tout le monde. Et c'est vous qui m'avez expliqué, mais oui, PA en a parlé. Et donc, c'est une nouvelle façon de comptabiliser les viewers. Zach a fait une très bonne analyse de ça sur Popcorn. Ok. Voilà, c'est drôle, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en vrai, mais bon, ouais. Mais bon, moi, ça me dérange pas que vous m'écoutiez en lurk, hein. Voilà. Je pense que cette revue de presse, elle peut s'écouter de façon active, en échangeant, participant, en écrivant des messages, etc. Et puis elle peut s'écouter de façon, le mot n'est pas joué, d'ailleurs passive, tranquille, chill, quoi, un peu comme de la radio, quoi. C'est à cause des bots aux États-Unis, ok, d'accord. J'ai vu ton passage chez DFG, elle est sympa la vidéo avec DFG. C'est pour stopper le botting de certains streamers avec des commus à 20 000 viewers et 10 messages dans le chat. Ah ouais. Ok. Pression des annonceurs aux États-Unis après du botting massif. Ah ok. Donc c'est les annonceurs qui voulaient des vrais stats. Ouais. Alors moi je suis pas trop impacté le matin. Bon, c'est vrai, il y a moins de viewers affichés sur la revue de presse, mais bon, ça reste mon rendez-vous principal. Donc en vrai, j'ai bien de la chance de vous avoir aussi nombreux sur cette revue de presse. Merci, vraiment. Sur mes stats gaming, oui, il y a moins de gens, mais je pense que c'est moins dû à la nouvelle comptabilité, au fait que je pense que vous en avez marre de me voir jouer à Valo. franchement, je pense que vous en avez marre de me voir jouer à Valo. Je vais remercier les subs. Hier soir, j'ai pas streamé pour ça d'ailleurs. Hier soir, en vrai, j'avais rien de spécial. Et je me suis dit, tiens, je lancerais bien un nouveau jeu. Et puis, parfois, on n'a pas l'idée, on n'a pas l'envie. Et j'ai regardé tous les jeux que j'avais fait en Samplay. Et puis, il n'y a pas eu une envie, l'envie d'avoir aimé. L'envie d'aimer, je sais pas. Comment ils chantaient déjà? Donc, je cherchais. Si, j'avais une envie de. Quel est le jeu que m'a fait découvrir Emilien, le GOAT de la culture générale, là, de voiture, là? Gran Turismo, ouais. Si, j'ai une envie de Gran Turismo. Je trouvais ça rigolo pour changer un petit peu, puis là, vraiment chill, quoi. Vu que je conduis comme une tanche. Et, sauf qu'en fait, il faut que je connecte ma Xbox à mon PC et à OBS, c'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça hier soir à 19h30, flemme. J'étais pas sûr de le faire et de le faire bien. Voilà. Donc, et ce week-end, je vais pas streamer des masses non plus. Mais donc, Gran Turismo, il y a une vraie envie, ouais. Ouais, sur Xbox, ouais. Non, c'est pas sur Xbox? Nico Manga? Faut pas jouer à Gran Turismo sur Xbox? Attends, il y a Nico Manga qui me dit. C'est nu. Attends, faut jouer sur PC? Moi, je préfère jouer sur PC en vrai. Parce que moi, je préfère jouer sur PC, moi. Ah, c'est sur PlayStation! Ah oui, d'ailleurs, c'est une PlayStation que j'ai là? Moi, je suis pas un joueur console, je connais rien. Elle est même pas là, ma console, Joe me l'a piqué. Ah, c'est une PS5 que j'ai? Je suis pas un joueur console, je n'y connais rien. Vous savez, les consoles, à mon époque, quand j'étais jeune, il y en avait, mais c'était pas celle-là. Hein. Et donc, je suis pas un joueur console. Moi, j'ai redécouvert le jeu vidéo par le PC, je joue que PC, quoi. Et donc, je n'y connais rien. Quand tu montres une PS, une Xbox, en fait, c'est une PS que j'ai, ouais. Mais on peut pas jouer PC du tout? C'est dommage. Hein, on peut pas jouer du tout. Alors, Soufrozen, Boomer, s'écrit B-O-O-M-E-R. Voilà. Alors, B-O-2-M-E-U-R. Sans être à cheval, sans être à cheval sur l'orthographe. Alors là, je veux pas, tu vois, moi, je veux pas juger sur l'orthographe. Mais alors, B-O-2-M-E-U-R. Le fameux Bomber, le célèbre Bomber, non. Quel Bomber? Tu veux dire quel beau gosse, tu veux dire? Ah, je vous kiffe! Voilà, donc vous me confirmez qu'on peut pas jouer à ce jeu sur PC? C'est bien dommage. Parce que moi, je suis un joueur PC, moi. Voilà. Donc, on peut pas jouer du tout? À Gran Turismo sur PC, ça n'existe pas. Du tout. C'est dommage parce que ça ferait plus de joueurs, non? Impossible. Pas encore. Ah, un jour? Ça fait nom de flic, inspecteur Bomber, c'est pas faux. Ok, on peut pas. Bon, alors, du coup, vous en aurez, mais le temps que je connecte la PS5. Mais il n'y aura pas tant de streams ce week-end que ça. Parce que Hélène part en week-end pro là, et donc c'est moi qui m'occupe des enfants. Je suis super heureux d'ailleurs. On va être tous les trois garçons, les trois mecs. Voilà. Ça va être soirée jeux vidéo, ça va être les petits restos de junk food. Ça va être formidable. Et donc je vais lancer un stream gaming cet après-midi, genre je sais pas du 17 ou du 18-22, ok. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ce en début de soirée et après je passe tout le week-end avec eux, quoi. Voilà. Donc samedi soir il y aura pas de stream, enfin il y aura du gaming mais ce sera à la maison avec les petits. Voilà. Qui a jamais été invité à un slow pendant les booms? Salut Ariette. Si, si, moi, si, 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 si. Si. Mais c'était au siècle d'avant, oui. Oui. Ouais, si, 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 si. Ça, j'aimais bien ça. Donc, week-end avec les enfants. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura un stream cet après-midi, début de soirée. Alors, sur quoi, je sais pas encore. Tu joues à quoi avec les enfants? Ça dépend. Parfois, on joue ensemble. Parfois, chacun joue. On est dans la même pièce. Mais chacun joue à son jeu. Puis on se regarde et on rigole. Voilà. À une époque, on jouait beaucoup à Mario Kart avec mon épouse et les enfants. Puis maintenant, ils ont un petit peu découvert leur jeu à eux. Malo, il est dans un arc incroyable sur Zelda, là. Ça me fait plaisir, c'est un jeu que je trouve magnifique et donc il a le droit à des temps de jeu qui sont encadrés, hein. C'est des petits, ils ont 5 et 9 ans, donc le jeu c'est pas tous les jours, hein. C'est le jeu c'est de temps en temps. Ils ont le droit, quand ils ont été gentils, ils ont bien travaillé à l'école, c'est-à-dire tous les jours, ils sont choux. Ils ont le droit de récupérer leur récompense le soir, ils ont 5 minutes chrono et on met des chronos et tout, hein. Il faut encadrer, hein. Les enfants, faut pas laisser tout seul devant les écrans, vous le savez. Et donc, et sinon, ils ont en gros, ils ont. Le week-end, une fois ou deux. Là aussi, c'est chronométré, hein, le droit de jouer. Et Malo, il est dans un arc Zelda qui est magnifique. Et le voir explorer Zelda Breath of the Wild, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, c'est un plaisir parce que c'est un très beau jeu. C'est un jeu, on n'est pas, c'est pas un jeu addictif dans le sens où c'est assez chill quand même, quoi. C'est pas un jeu mobile, c'est pas un FPS non plus. Donc, moi, ça me fait plaisir de le voir sur ce jeu. Et le petit. Ben le petit, c'est très intéressant ce que vous dites. 5 minutes de Zelda. Non, le week-end, il a pas 5 minutes. Le week-end, il a facile 1 heure, quoi. C'est les récompenses, récupérer les récompenses, il y a des récompenses. Et le petit avait découvert les jeux mobiles, vous savez, sur tablette. C'est des jeux un peu addictifs, là. Hein, il est vraiment pensé pour que ça relance et tout. Donc ça, en fait, je lui ai expliqué que c'était pas bien, ça. Hein, c'est... Vas-y, vieux sénile, pourquoi tu... Oh, dommage, j'ai pas eu le temps de le lire. Nova Nexor, tu as actuellement le stream de ta... de ta st le streameuse préférée qui est... en live, là, mais tu l'as raté. Nova Nexor, tu t'es trompé de live. Tu as actuellement, littéralement, le stream de ta streameuse préférée sur du cast Valo qui est en live, là. Tu t'es littéralement trompé de live. Je t'embrasse, voilà. Et puis un jour, si tu réfléchis un peu à tout ça et que la sagesse te gagne, tu regretteras tout ça et tu viendras t'excuser comme un grand. Voilà. Et donc le petit, waouh. Par contre, Heliocorps, donc il a été banni bien sûr parce qu'il vient de tenir des propos sexistes et être extrêmement gênant. Et je veux bien que vous le signaliez même. Alors ça, c'est un truc que je demande jamais. Mais alors là, on a Pardon, à 99,99% des gens ici, vous êtes incroyables, mais il y a des gens un peu fous. Je ne peux même pas dire que c'est des enfants, parce que normalement, ils sont censés être à l'école. Donc, c'est des gens qui n'ont même pas l'excuse de la jeunesse. Et alors, Ellie Corpse, là, qui vient d'être banni à l'instant par Sugar, qui met des headshots comme jamais, je pense qu'il faut le signaler, parce que ce genre de propos sexistes et discriminants, il faut que ça disparaisse de Twitch, quoi. Il y a un formulaire? Merci. Vous l'avez signalé? Ah ouais, ça c'est la première fois que je demande ça. Mais bon, à un moment, il faut être carré, quoi. Ce matin, on lira un gros dossier dans l'Humanité sur les féminicides en France. En attendant ton ban, chouchou, là, et ton signalement, n'hésite pas à venir consommer. Tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses. Voilà. Et donc, je disais, donc le petit, il a découvert le jeu mobile. Et en fait, on sait tous que les jeux mobiles, ils sont pensés pour être très addictifs. Et pour les jeunes cerveaux, c'est vraiment pas bon, quoi. Voilà. Et donc, il était pas content, il a un peu pleuré. Parce que ces jeux sont très bien faits pour faire revenir, bien sûr, les jeunes et les moins jeunes dessus. C'est pensé pour ça. Et je lui ai dit que je préférais le voir jouer à des jeux qui n'ont pas ce potentiel addictif. Et qui vont lui faire plus de mal que de bien, quoi. Et donc, il est en train de redécouvrir les jeux auxquels son grand frère a joué plus jeune sur sa Switch. Alors, il y avait un jeu Pat' Patrouille qui est trop chou. Alors, c'est un peu moins hardcore, tu vois. C'est un peu plus chill. Bon, il a terminé très vite. Pat' Patrouille. Et là, il est sur. Oh oui! Kirby! Non, pas Doom! Ouais, il a compris. Bah oui. En fait, un enfant, si tu lui parles. Il a 5 ans et demi. Si tu prends le temps de lui parler, en fait, c'est pas un animal adressé, quoi. En fait, cette intelligence, elle demande qu'à s'ouvrir et à entendre des messages, quoi. Sur le coup, il y a de la frustration, donc il y a une réaction qui peut être un pleur en mode « Ah, mais moi, je veux jouer à mon petit jeu, là, gavé de pub, quoi. » Et là, là, il est sur Kirby, là. Et il kiffe, ça y est, il est passé à autre chose, quoi. Le jeu vidéo, en soi, c'est pas ni une bonne ni une mauvaise chose. Ça dépend de l'âge, de la pratique, de la consommation, du jeu, on est d'accord, quoi. Kirby. C'est trop chou. Voilà. Je suis gamer, mon petit, à 4 ans, j'ai l'impression de toujours freiner des cas de fer parce qu'il en demande permanente. Ouais. Mais oui, c'est ça. Le jeu, c'est bien, mais je pense que pour les plus jeunes notamment, il faut une dose, quoi. Hein, pas plus. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, quoi. Je sais pas trop comment gérer. Ben, en fait, il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites. C'est mon épouse qui a mis ça, qui a organisé ça de façon carrée. C'est vraiment des temps, c'est des timings. Et l'enfant, il a besoin d'un cadre où tu lui dis, bah écoute, oui, le jeu vidéo en soi, ok. Hein, sachant que mes enfants jouent beaucoup plus aux jeux vidéo, je pense, que les enfants de leur école. Et donc, je leur dis que c'est une bonne chose, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ils ont des temps. Donc, tout à l'heure, je vous donnais un exemple. Quand ils ont été gentils et ils ont bien travaillé à l'école, c'est-à-dire en gros tous les jours pour eux parce que j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont cool, eh ben, ils ont le droit à 5 minutes chrono le soir pour récupérer leur récompense. Tu vois? Parce que il y a des récompenses, même sur Zelda là. Puis ils ont les. Malo, il a des espèces de petites figurines là, tu vois? Qui pop dans le jeu là. Je ne saurais pas trop vous expliquer là. Les petites figurines IRL là. Oui? Je vais vous remercier les subs parce que vous êtes incroyables. Les amiibos. J'ai rien compris ce truc-là, moi. Les amiibos. Donc 5 minutes, clac, chrono. Et au début, ben ça râle un peu, mais maintenant, ben la petite sonnerie des 5 minutes sonne, et puis voilà, puis ils s'arrêtent et ils savent que le lendemain ils auront de nouveaux droits. Et le week-end, donc le vendredi soir, il y a une soirée jeux vidéo ou dessin animé, c'est eux qui choisissent. Et puis, c'est là aussi, c'est timé. En général, c'est 2 heures. Tu vois, c'est cool, hein. Et puis, on joue aux jeux vidéo, quoi. Et puis, parfois, exceptionnellement, quand c'est la fête, on peut remettre ça une deuxième fois le week-end, quoi. Voilà. Mais je crois que l'important, c'est le cadre. L'enfant, il a besoin de. Pardon, l'éducation peut être tout à fait bienveillante. Voilà. Et s'adresser à l'intelligence de l'enfant sans aucune violence, cela va de soi, hein, ni physique ni psychologique, ça c'est la base de la base, tout en mettant des cadres. La fameuse éducation bienveillante qui a été très, très, comment dire, qui est parfois mal comprise, c'est pas un laisser-faire, c'est pas l'enfant il fait ce qu'il veut, c'est pas l'enfant roi. L'enfant roi il est malheureux. Hein, l'enfant avec une totale liberté, il est malheureux. L'enfant dont on ne réprime pas, n'encadre pas un petit peu les désirs, il est malheureux. Un enfant, il a besoin de cadre. Donc l'éducation bienveillante, ça n'est pas de pas donner de cadre à un enfant, quoi. Au contraire, il en a besoin, quoi. Je pense qu'il est plus heureux comme ça, quoi. Quelqu'un me dit 2 heures, ça paraît beaucoup à 5 ans. Ça va en vrai. Il est dans une famille de gamers. Le grand frère, le grand frère, il code. Il a 9 ans. Il a des cours de code tous les dimanches sur Discord avec d'autres élèves et un prof. Il est en train de construire ses premiers jeux vidéo. Bon, c'est donc il y a le grand frère. Il y a le papa qui joue aussi. Si tu veux, c'est compliqué de dire au petit, toi non. Donc, ouais. Et puis c'est 2 heures où il est pas tout seul. Hein. L'enfant, chez nous, il est jamais tout seul dans sa chambre avec les jeux vidéo. Il est dans le salon, la télé ne sert qu'à ça chez nous. Hein, on regarde pas la télé, nous, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. La télé, elle est jamais allumée. Sur les infos, sur. De toute façon, on ne montre pas les infos à les enfants de cet âge-là. Ou sur. Jamais. Par contre, elle sert pour le jeu vidéo. Et donc, c'est dans la salle à manger, dans le salon. Et en fait, c'est un divertissement familial. C'est-à-dire que quand les enfants jouent, on est avec eux. Et on les regarde, et on participe, et on rigole avec eux. Vous voyez, c'est ça. Le jeu vidéo, ça peut être un créateur de liens aussi. Et l'enfant, il est content de te raconter, de t'expliquer. Ça, c'est top, quoi. Bon, voilà. Attention, ça, après, c'est que notre pratique. Hein. Moi, je donne pas des cours d'éducation. Je dis juste que dans ma famille, ça se passe comme ça, et que ça se passe bien. C'est pas un modèle. Hein. Moi, je suis modèle de rien. tout dépend de l'enfant, tout dépend de la famille, tout dépend de l'éducation que tu veux lui donner, tout dépend de tes propres valeurs. Moi, j'ai un rapport aux jeux vidéo, bon, ben, j'aime bien cet univers, tu vois. Donc, ça se passe comme ça, et ça se passe bien. Mais c'est pas un modèle, je suis un modèle en rien, moi. Je vous raconte juste comment ça se passe à la maison. Tout ça pour vous dire que ce week-end, on est tous les trois. LOL, un homme de télé qui regarde jamais la télé, jamais. Je ne regarde jamais la télé. Mais jamais, jamais, jamais. J'en fabrique, mais je ne la regarde pas. Pas le temps. Je préfère faire d'autres trucs. Famille, sport, jeux vidéo. Il fait toujours du scratch ou il apprend d'autres langages? Il est toujours sur du scratch là. Toujours du scratch. C'est mignon en vrai. Mais il marche bien. C'est mignon. Il y a Bug Danny qui dit en fait, comme tu l'as dit, le cadre est vraiment important. Par exemple, mes parents ne veulent pas que j'ai la console dans ma chambre et c'est légitime parce que sinon on s'enferme. Tant que les jeux sont pour l'âge de l'enfant, c'est bon. Ouais. Je suis assez d'accord. Pardon, j'ai plein de subs que je n'ai pas remercié. Merci Pierre pour le troisième mois. Lonocta pour le Prime. Merci Kratos97 pour le soutien. Merci Fan Ferrari pour le 26e mois. Merci Dopsch pour le 9e mois. Merci Fire Under pour le 3e mois. Merci Arthur Rizio pour le 30e mois. Merci Fleur de Licoris pour le 3e mois. Merci Martin Kless pour les 5 abonnements offerts à la commu. Je prononce comme ça? Je t'ai pas remercié tout à l'heure. Et pour l'abonnement que tu as pris pour toi, donc ça fait 6. Merci Marveille BZH qui a été le premier ou la première à sub. Salut Mataevs. Oh, on a déjà parlé de tout ça, tu sais. Matt, le centurio, j'adore. On a déjà parlé. Ça m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, pas suffisamment pour en faire mon contenu sur Twitch tous les jours. Je vais vous parler de choses éminemment plus importantes. Que la mobilisation d'une petite partie de la population française qui est fâchée qu'on ne valide pas ses idées, quoi. Moi, je suis là pour échanger avec vous, quelles que soient vos opinions, mais je suis pas là pour vous imposer mes idées. Et les gens qui se fâchent, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne partage pas les leurs, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je me fâche pas. Bonne ambiance dans le chat ce matin, ça fait plaisir en vrai. Red Bull dès le matin? Ouais. Ouais, en ce moment, alors je vous cache pas que moi, l'hiver, l'arrivée du froid, là, ou je sais pas si je suis épuisé. Là, je fais le malin, là. Mais je suis dead. J'ai qu'une envie, c'est de dormir et de bouffer. Une catastrophe. Je bouffe tout le temps, je grignote tout le temps. J'ai que envie de dormir, j'ai envie de rester au lit le matin, j'ai envie de faire des siestes l'après-midi, le soir j'ai envie d'aller me coucher. Je suis totalement à la rue. Hein. Donc là, il y a eu un café, il y a une petite Red Bull Light sur le bureau là. Là, j'ai une envie d'hiberner, j'ai envie de me mettre dans une grotte, quoi. J'ai envie de me mettre dans une grotte et rien foutre. Bon, heureusement que j'ai ce rendez-vous de la revue de presse le matin que je me suis imposé, que je me suis fixé parce que c'est bien d'avoir des rendez-vous quand même. Mais sinon, je serais au lit à rien foutre. Donc là, vous, je sais pas, mais Hélène me dit, mon amoureuse qui est toujours très gentille, elle me dit, ça, c'est rien, c'est le froid, c'est normal. Moi aussi, en ce moment, j'ai tout le temps faim et tout. Elle est super gentille. Ouais, j'ai l'impression d'un gros flemmard, quoi. Vitamine D, ah, peut-être, ouais. Essaye de reprendre le sport, ouais, j'essaye, ouais. Je me suis remis au chocolat et tout, il n'y a rien qui va. Ouais. Je mange des bols de céréales toute la journée, là. Je me suis tapé un pain au chocolat hier soir à quelle heure à 23h en lisant les journaux. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors vous, je sais pas, mais moi, l'arrivée de l'hiver, là. Pff. La débandade, dit Nakog. Non, non, là, de ce côté-là, ça va. Oh putain. Ah bah, attends, attends, on peut déconner, hein. On peut rire un peu, hein. Peut-être, ouais, cure de vitamine, peut-être, ouais. Oh, merci Nat59 Alice. C'est pareil aussi, ce matin je me suis fait des pancakes, alors j'en fais que le dimanche. Bah, faites-vous plaisir en vrai. Hein. C'est le cafard hivernal, on est tous pareils, me dit Nadia Rama. Ah, j'ai une envie d'hiberner, moi, j'ai une envie d'hiberner. J'ai une envie de tartiflette, j'ai envie de raclette, j'ai envie de fromage, de pain, de beurre, de sucre. de vin chaud, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rien foutre. Voilà. Enfin, heureusement que vous êtes là, parce que ça aide un petit peu de lancer un stream et de voir. En vrai, c'est comme de la caféine, hein, de vous voir, vous êtes là. Vous êtes de bonne humeur, vous dites des trucs drôles, ça parle de débandade. Je dis non quand même, faut pas déconner. Enfin, on s'amuse. Bon, ça réveille un peu le cerveau, quoi. Mais je suis vraiment en mode flemme, quoi. Vas-y, Samuel, on regarde un film tous ensemble sur le canapé en mode pépouze, me dit Flynn. Mais ce matin, par exemple, tu vois, j'ai lu le journal hier soir, parce que maintenant je l'ai lu le soir. Donc, pour vous raconter ma vie hier soir, donc j'ai décidé de pas live. J'ai regardé un film avec mon épouse. On s'est cherché un truc bien chill. Genre Les Profs. Un truc avec Kev Adams. Un truc d'il y a 10 ou 15 ans. Elle m'a dit, viens, on va pas se compliquer. On va prendre un truc pas compliqué. Eh ben, vous savez quoi? On a passé un bon moment. Il y avait Pef, il y avait Isabelle Nanty. En vrai, on a passé une bonne soirée, tu vois. Et après, donc, j'ai bossé. Voilà. Et après, mon épouse est allée bosser. Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En gros, j'ai lu les journaux jusqu'à 1h ou 2h du mat. Puis à 1h, 2h du mat, j'ai croisé mon épouse qui allait se coucher. Et je lui dis, mais attends, mais tu dors pas? Elle m'a dit, bah non, j'ai du boulot. Et donc, en fait, elle a regardé le film avec moi alors qu'elle avait du taf. Waouh. Ça, c'est beau, l'amour. En fait, elle a vu que j'étais en mode. J'avais envie de rien faire, quoi. Et donc, elle m'a rien dit. On s'est mis dans le salon, on a regardé notre film à 2 balles, là. Et en fait, elle avait du taf. Ça, c'est beau. Et donc, pourquoi je dis ça? Ah oui, donc ce matin, donc j'ai lu les journaux. Et ce matin, je me suis réveillé en mode ours qui veut pas se réveiller. Et il y a un monde où je me suis dit, mais j'ai pas envie de parler d'actu, en fait. J'ai pas envie de parler de l'Ukraine, j'ai pas envie de parler des sujets graves qu'on va évoquer ce matin. Je vais me recoucher, quoi. Je me suis allé non, quand même, quoi. Donc sachez que si vous avez des doutes de motivation là en ce moment au taf, vous n'êtes pas tout seul quoi. C'est quoi son taf qui l'oblige à travailler 1h du mat? Ben, elle travaille dans l'horlogerie, qui est un très beau secteur. C'est sa passion depuis toujours. Et sauf qu'elle est très consciencieuse, donc elle fait ses journées, elle est salariée. Hein, et de temps en temps, il y a des coups de bourre, donc elle travaille le soir à la maison en plus, quoi. Voilà. Mais c'est une machine. C'est une machine. Hein, salut Defecator. Arrête Ariette, elle est affreuse cette anecdote, c'est impossible. Merci Mataev le Centurio encore pour ce gentil message. Donc des horlogers qui travaillent à pas d'heure, pas con. Dans l'horlogerie on compte pas ses heures. Ah putain, j'avais jamais fait cette blague à mon épouse. C'est quoi ce planning d'anti-Trump, me dit Spartan dans le chat. Écoute, ben, il n'y a aucun problème. J'ai un soutien du président américain dans le chat. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va le garder au moins 2 heures avec nous parce que l'Ukraine et Zelensky, ça va pas arriver avant 2 heures. Ouais, t'en as pour 2 heures. Mon pauvre! Imaginez le soutien Trump obligé de se taper 2 heures de Samuel Etienne. L'autre gauchiste là qui va lui parler des féminicides en France, qui va lui parler de la messe pour Pétain. Hein? Ah, le pauvre! Ah, mon pauvre! Franchement, moi je serais toi, tape-toi le replay. C'est pas parce que je suis impartial que je suis pro-Trump. Ah, ok. J'ai pas mal de messages en ce moment de ce type aussi. J'en reçois beaucoup de mails en ce moment qui disent un petit peu ce genre de choses aussi. J'ai pas mal de messages comme ça. Voilà. Mais c'est plutôt sur le RN. Voilà. Mais c'est à peu près la même chose. J'ai des mails comme ça. Sachez, monsieur, que je ne vote pas pour le Rassemblement National. Ça commence comme ça. Et puis après, tout le reste du mail, c'est un truc à la gloire du RN. Et je me dis, mais alors à chaque fois, je comprends pas. Je dis, mais si le parti est si fou que ça, pourquoi tu votes pas pour lui? Je me fie toujours de ces. Non mais moi je suis impartial. Je suis pas machin, je suis impartial. Ok. Mais sinon la colère, ça va quand même. Donc voilà, t'as 2 heures à attendre avant qu'on parle de Trump. C'est vrai que Trump, moi j'ai rien contre lui. Hein. C'est vrai que je suis pas fasciné par l'homme qu'il est quoi. Ni par l'homme qu'il est. Ni par les valeurs qu'il a, ni par les poursuites judiciaires qui émaillent sa carrière d'homme politique depuis toujours, ni certains de ses textes politiques, pas tous d'ailleurs. Il a joué un rôle au Proche-Orient que je trouve assez intéressant en vrai. Mais sur l'Ukraine, là, en ce moment, là, il a sorti un peu une dinguerie par contre. Et puis là, par exemple, l'article que tu penses à charge, qui s'appelle le camp Trump divisé, c'est pas contre Trump. C'est plutôt contre son camp, le camp MAGA, Make America Great Again, qui est en train de se diviser en fait. Avec dans ce camp, on va dire, des modérés MAGA et des extrémistes MAGA. Et c'est pas tellement contre Trump d'ailleurs, c'est son soutien, son public qui est en train de se diviser. Donc si ça t'intéresse, je pense que ça va t'intéresser. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas un truc anti-Trump, c'est plutôt sur son camp. Alors j'ai pas dit Magla, hein. J'ai dit MAGA. Hein. Magla, c'est une reine, ne confondez pas, c'est autre chose. Comme écrit Defecator, c'est tout le problème d'avoir réuni des soutiens aussi hétéroclites. À un moment, chacun commence à tirer de son côté. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Merci pour le cœur, Pips, tu fais plaisir. Bon, ouais, je suis bien bavard ce matin. Hein. Je remercie Darsaliot pour le 33e mois de soutien sur Twitch. Merci Gogo pour ton 26e mois. Dancer, merci pour le soutien. Merci Pira, merci Lonocta, merci Kratos. Vous avez démarré un train de hype. Tellement vous êtes fou. Voilà. Ça faisait longtemps. Merci Kratos. Merci Fan Ferrari pour le 26e mois. Merci Dupch. Merci. Mais c'est quoi cette pluie de sub? Merci Firehender. Merci Arthur Ezio. Fleur de Licorice, c'est incroyable. Plus de 30 minutes d'introduction. L'intro dure toujours 30 minutes ici. C'est Étoile qui m'a appris. C'est Étoile qui m'a appris. Au moins, tu essayes de rester neutre. Pas tant que ça, Spartam. En fait, c'est un truc que j'explique souvent à ma communauté, je crois pas à la neutralité, je crois pas à l'objectivité, je crois à l'honnêteté intellectuelle, qui est un grand mot. Je m'explique. Il y a Cotan qui dit « Ah non, il est pas neutre du tout. » Cotan, je valide. Moi, je ne revendique pas la neutralité. C'est ma chaîne. On n'est pas sur une chaîne qui emploie 150 journalistes où il y a une ligne éditoriale dont chacun doit se mettre dans ce cadre, donc c'est ma chaîne. Voilà. Si vous voulez exprimer vos idées, vos opinions, chacun peut créer sa chaîne. Donc c'est ma chaîne, il n'est pas tellement surprenant que sur ma chaîne, il y ait mes opinions. Après, opinion, c'est un mot un peu fort pour mes vagues idées sur le monde dans lequel on vit. Mais effectivement, je ne cherche pas la neutralité, moi. Je cherche plutôt l'honnêteté intellectuelle et l'échange avec tout le monde. Je m'explique. Comme tout un chacun, je suis le fruit d'un parcours. Je suis né à un endroit, donné, dans une famille donnée, avec des valeurs données. J'ai eu un parcours qui est le mien. J'ai eu mes lectures, ma réflexion qui m'ont amené à avoir un regard sur le monde. Et chacun ici, dans les deux chats, à Twitch et TikTok, vous avez fait ça. Vous avez fait ça, ça vous a amené, pour ceux qui réfléchissent un petit peu à l'actu et au monde dans lequel on vit, à un regard sur le monde qui est le vôtre. Le matin, je vous parle d'informations. Je vous choisis des journaux, ce qui est déjà un choix, certains et pas d'autres. J'ai choisi de vous lire la presse quotidienne nationale. Dans ces journaux, je vous choisis certaines actus, pas toutes, mais certaines, parce que je ne peux pas tout traiter. Ça, c'est encore un choix, qui est un choix subjectif. Dans ces articles, je vous choisis des extraits. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est des choix. Et je pourrais faire passer ça sous le couvert de la neutralité ou que sais-je, l'objectivité. Non. C'est des choix. Que j'en ai conscience ou pas conscience, c'est des choix. C'est une subjectivité. Voilà. Et après, en plus, une fois que j'ai exposé ces infos qui sont déjà des infos choisies et quelque part orientées, après, de temps en temps, je vous donne mon avis en disant « Attention, ça c'est l'actu, puis maintenant je vous donne mon avis. » Et ça, c'est encore plus subjectif. Donc ça n'a rien de neutre, ce que je fais. C'est très subjectif. Voilà. Et vous avez le droit de discuter, de contester. Au contraire, je vous y invite de ne pas être d'accord. Mais du coup, d'essayer de respecter mes prises de position, quoi, qui n'ont rien de formidable, comme j'essaie de respecter vos opinions aussi. Ici, il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi et avec qui, au quotidien, on échange de façon hyper chill, quoi. Donc, ici, ça n'est pas neutre, comme aucun média, d'ailleurs, n'est neutre. Et quand un média vous dit qu'il est objectif et qu'il est neutre, c'est qu'il n'a pas beaucoup réfléchi à ce qu'il vient de vous dire. Par contre, je crois à l'honnêteté. Hein, d'être dans une démarche objective, honnête, voilà, de rigueur, tout en se trompant d'ailleurs régulièrement d'ailleurs. Après, j'ai des valeurs, et je les exprime. Bon, on va y aller, les chouchous. C'est le message d'Hugo Décrypte, le choix de quoi on parle n'est pas neutre. Excellent message. Hugo Décrypte, c'est vrai que quand on regarde. Moi, je suis allé voir les contenus un peu d'Hugo, qui fait un travail incroyable, excellent. Il est plus. On pourrait estimer qu'il est moins éditorialisé que le mien, on est d'accord? Moins subjectif, quoi. Il donne un peu moins son avis sur l'actu, et c'est une démarche qui est vraiment excellente. Mais il a raison, Hugo. Par le choix des infos qu'il choisit de traiter, c'est déjà une éditorialisation. Salut maman, dédicace pour toi. Bon. Go! Go! Hugo fait des vidéos de 10-15 minutes, un peu dur de donner son avis. Ouais, il a fait le choix de YouTube d'ailleurs. Enfin, YouTube et plein d'autres supports, mais pas Twitch. Il est venu sur Twitch à un moment, Hugo Décrypte. Mais il y est plus, si je dis pas de bêtises. Et je crois pas que qu'il a eu un. Que la plateforme lui ait. L'ait séduit à ce point, quoi. Je pense qu'il est dans une autre. Il a envie d'autres formats, quoi. Mais ce qu'il fait, c'est fou, hein. Mais ce qu'il fait, c'est fou, hein. C'est incroyable. Puis il fait travailler plein de gens, hein. C'est incroyable, hein. Sa rédaction, son équipe, c'est fou, hein. Vous pensez quoi de la prise de parole du chef d'état-major de l'armée aujourd'hui? On va en parler. On va en parler, on va commencer même par ça. Regardez, je vous fais le sommaire. Allez, TikTok, je vous la mets. Ah oui, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. N'oubliez pas, dimanche soir, ça me plaît. Mon émission du dimanche soir qui explore la culture du jeu vidéo, c'est que sur Twitch. Mon invité Alderiat, voilà, invité de fou pour un jeu de fou, Skyrim, dinguerie. Ok? Ok? Dinguerie. Ça va être super. Alors, je vous enlève ça maintenant et je vous mets les journaux. C'est parti, 42 minutes d'intro, on est pas mal. On est pas mal. Interagir. On est sur le sommaire et on est à 42 minutes. On va mettre 43 même. Pour ceux qui écoutent notamment en replay. 43 minutes. Ok, top. Et je vous mets la petite. Et vous l'avez TikTok, la flèche. Ok. Le sommaire. Le sommaire, c'est quelques minutes pour vous dire de quoi on va parler vite fait. Donc, excusez-moi, je ne vais pas lire trop vos messages. Là, c'est juste pour vous dire de quoi on va parler. Hier, vous avez été super nombreux dans la presse à me dire, mais Sam, est-ce que tu pourrais parler de cette déclaration du général Mandon, qui est le chef d'état-major des armées, donc un militaire qui est le numéro un de l'armée française, qui a invité le pays à être prêt à perdre ses enfants. Hein? Qu'a-t-il voulu dire? Quelle est la portée de son message? Voilà. Il y a beaucoup d'articles ce matin là-dessus et c'est le pari que j'ai fait hier. Je vous répondais, mais je suis sûr que les journaux vont en parler demain. Donc, on a un article dans Le Parisien, on a un article dans Libération, un article dans Le Figaro là-dessus. Et donc, on va mettre un contexte, on va se pencher sur ses propos, voir quelques analyses pour voir ce qu'on peut en penser. Ok? Merci Darsaliot, tu es génial. Merci pour les 5 abonnements à nouveau offerts à la commu, tu régales. Merci Matt, je sais pas comment je prononce, Matteux, merci beaucoup. Merci, merci Darsaliot, merci Gogo. Vous êtes incroyable. Donc on parlera de ça, premier sujet. Ça c'est marrant, je reviens un peu en arrière. Des articles sur la messe qui a été donnée à Pétain, c'était à Verdun, par l'archevêque évêque de Metz, ça a quelques jours. Je crois que ça remonte à la semaine passée. Et sur le coup, j'ai vu des articles, mais qui ne m'ont pas convaincu. Et parfois, je vois une actu qui semble intéressante, puis l'article me semble pas très clair ou je comprends pas trop quoi. Et là, j'ai trouvé une tribune d'un historien qui s'appelle Marc Nobel, historien et essayiste dans Libération, et ben, l'article m'a semblé intéressant. Tu vois, il y a Julien qui dit, j'ai pas suivi l'histoire du général, je suis perdu, je t'explique tout. Donc pourquoi? A-t-on donné à Verdun une messe à la mémoire de Pétain, hein? Et pourquoi certains ont estimé que c'était pas une très bonne idée? Eh bien, on va en parler. Un sujet qu'on évoque souvent sur cette chaîne, et heureusement, les féminicides. La une de l'Humanité ce matin, elle est très, très forte, c'est « L'inertie tue ». Depuis le 1er janvier de cette année, 145 femmes en France sont mortes, tuées par un conjoint, un mari, un ex, un fils. On rappelle que l'essentiel des violences contre les femmes, c'est à la maison, hein, c'est dans le cadre familial, hein. C'est pas dans la rue. Ce fléau est aggravé par l'inaction politique et le manque de moyens. Voilà, donc on se penchera sur ce dossier de l'UMA. Je pense qu'on a encore besoin d'en parler. Hélas. Je vais très très vite, puisque on est dans le sommaire. Vous étiez nombreux tout à l'heure à me parler de Trump. Et alors, l'actualité de Trump, c'est notamment un plan de paix pour l'Ukraine. Et les échos, alors il y a eu beaucoup d'articles ce matin sur ce plan de paix. Vous savez qu'il y a un plan de paix de Trump pour le Proche-Orient, là, bon, qui va être bien compliqué à mettre en œuvre. Et il y a un plan, cette fois pour l'Ukraine. Que vaut-il? Bah, la plupart de vos médias, de vos journaux ce matin disent c'est bien, il y a un plan, mais c'est un plan russe. C'est un plan pour la Russie, c'est un plan pro-russe. C'est un plan qui est très compliqué pour l'Ukraine. Et c'est ce que nous disent les échos en leur une ce matin. Zelensky, de nouveau fragilisé par Trump. Zelensky, donc le président ukrainien, se retrouve de nouveau sur la défensive face à Trump. Le nouveau plan de paix en 28 points que l'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, a concocté avec le Kremlin. Déjà, dans cette phrase, il y a un truc qui ne va pas trop. Et qui vient de fuiter, reviendrait à une capitulation de l'Ukraine. Il ne peut être accepté par Kiev et est jugé inapplicable par les experts. Mais il tombe mal pour le président ukrainien, affaibli par les scandales de corruption, dont on a parlé ici. Hein. L'effet des sanctions décidées par Trump sur le pétrole russe, qui entre en vigueur aujourd'hui, reste en outre pour le moment très incertain. Pourquoi ce plan est-il considéré comme pro-russe, en tout cas servant les intérêts russes par les journaux? Ce matin, on lira ce dossier dans les échos. Voilà. Et puis on reparle de Trump, mais cette fois sur le sol américain, avec un dossier dans Le Monde. Alors j'ai déjà vu quelques articles passer sur le sujet depuis quelques semaines, mais bon là c'est la première fois que je vois un dossier entièrement consacré à ce sujet, qui fait la une en plus du journal. C'est le clan Trump, hein, le clan MAGA pour faire simple, Make America Great Again, qui aujourd'hui est divisé. Et même rongé par l'extrémisme, nous explique Le Monde. Affaire Epstein, je crois qu'on dit Epstein aux États-Unis, inflation, Israël, Venezuela, autour du président des États-Unis, le mouvement MAGA se déchire sur de nombreux sujets. Plusieurs figures de cet écosystème, c'est pas Le Monde qui l'invite, hein, ce sont des prises de parole publiques, reprochent aux milliardaires de se disperser dans les affaires du monde. Hein. Occupe-toi des États-Unis, qu'est-ce que tu t'occupes des Proche-Orient, qu'est-ce que tu t'occupes de l'Ukraine, qu'est-ce que tu t'occupes du Venezuela, à rebours du concept d'America First. Merci Lucas, tu régales. Outre ces dissensions, le camp Trump est sous l'influence croissante de factions radicales, notamment celle du néo-nazi Nick Fuentes. Ouais. Ses partisans forment une mouvance non seulement anti-élitiste, mais aussi anti-démocratique, antisémite, raciste et homophobe. Ces idées semblent en voie de banalisation auprès d'une frange croissante des jeunes membres du Parti républicain. Dossier intéressant. Salut Rim, non t'es pas en retard, on commence seulement. Et puis on terminera par deux choses un peu plus légères. Enfin la première histoire elle est pas légère, elle est belle. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette actualité. J'ai trouvé ça dans les pages locales du Parisien. L'héroïne du RERC, c'est une femme qu'on voit ici là, qui s'appelle Marguerite, qui est dans le RER, est venu secourir une jeune femme une brésilienne qui était agressée par un homme, une tentative de viol. Et cette femme, ce petit bout de femme, parce qu'elle-même, elle se moque de sa taille, elle est intervenue seule pour empêcher l'agression. Voilà. Et elle vient d'être, décoré, elle a reçu la médaille de la région pour son acte. Et en fait, le petit article est assez mimi parce qu'il raconte l'histoire et la force de caractère de cette femme assez exceptionnelle. Donc je voulais lui rendre hommage ce matin, je vous ai mis l'article de côté. Voilà. Seul alors qu'il devait y avoir du monde autour. Bah, on est dans le RER, ouais. Bah ouais. Bon, on verra l'article, hein, j'ai pas toutes les infos. Et puis un dernier truc, alors moi qui m'intéresse, parce que moi je suis pas un youtubeur, vous savez, hein, je ne crée pas pour YouTube, j'aime beaucoup l'échange et le direct sur Twitch. Mais je suis assez fasciné par la richesse des propositions de la production sur YouTube de plus en plus. Et puis le nombre de vues sur ce média. Et là, j'ai un article dans Les Échos sur l'instoppable. C'est vachement intéressant. Montée en gamme de YouTube. Hein? La plateforme attire toujours plus de longs formats, faisant de l'ombre aux chaînes traditionnelles. Si son modèle ne permet pas encore de financer les super productions télévisées, cela ne semble qu'une question de temps. Littéralement, quand on lit ces quelques mots, on a l'impression que YouTube va remplacer la télé, quoi. Pas mal, hein? Je vais m'y mettre, moi. Hein. Je vais devenir youtubeur, moi. Il y a peu de chance. Je crois que je n'ai pas le talent pour devenir youtubeur. Perso, j'ai 36 ans, me dit Diesel. J'ai grandi avec la télé. Maintenant, c'est YouTube tous les soirs. C'est déjà le cas me concernant, me dit Dimino. Ah, je sais. Ça fait 7 ans que je n'ai pas regardé la télé, me dit Tykazen. Alors que Twitch, les stats ne font que baisser. Twitch. On en a parlé tout à l'heure, les stats baissent actuellement parce que Twitch a mis en place un nouveau modèle de comptabilisation des viewers. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'être très nombreux ce matin, mais en vrai, vous êtes plus. Mais en fait, si vous n'êtes pas actif dans le chat, vous n'êtes pas comptabilisé. Mais Twitch, je ne suis pas sûr que Twitch est un média qui perd de l'audience. En revanche, je suis sûr que Twitch n'est pas un média qui gagne beaucoup d'audience. D'après les derniers. Merci pour les gens qui s'activent dans le chat. D'après les études que j'avais vues sur le sujet. Twitch est effectivement pas un média qui gagne de l'audience, c'est un média qui stagne, qui plafonne. C'est un peu un média de niche quelque part. Enfin, moi que j'adore, hein, personnellement. Merci de vous activer comme ça, vous êtes fous. Mais c'est vrai que si on compare à d'autres plateformes, YouTube, TikTok notamment, oui, c'est clairement pas un média qui semble gagner en audience. Ouais. Perle, je suis pas sûr. Alors évidemment, perdre par rapport au confinement, oui, à la crise sanitaire, oui, qu'on avait que ça à foutre chez soi. Mais gagner beaucoup, non, ça, je suis sûr, tu as raison. Ouais. Merci pour l'activation, c'est incroyable. Merci Grudu. Merci Grudu. Est-ce qu'il faut mettre régulièrement un message juste une fois? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais c'est vrai que bon, il suffit. Moi, au début, je me suis pas intéressé à ça, puis je suis allé voir les stats des amis sur Twitch. Là, je regarde. Là, au moment où je vous parle, je vois les stats des amis qui sont en live là actuellement, parce que moi, je suis 150 chaînes sur Twitch. C'est vraiment une plateforme que j'adore. Et ben, c'est vrai que les stats, c'est pas celle d'avant, hein. C'est sûr. Mais là, je pense que c'est un problème de comptabilisation, quoi. Merci Mohawk pour le Prime. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est la une d'hier, ça. Hop. Hop, let's go. Allez, on y va. Hop. Ça réduit vos rémunérations du coup moi non, parce que je mets pas de pub. Donc ça n'a aucun impact sur ma rémunération, moi. La baisse de la... Parce que moi, j'ai mis zéro pub. La seule pub que vous prenez chez moi, c'est le pré-roll, c'est la pub du début quand vous arrivez sur mon live, qu'on peut pas enlever. Moi, j'ai enlevé 100% des pubs. C'est un choix que j'ai fait il y a quelques mois parce que j'ai préféré m'asseoir sur cette rémunération pour que vous ayez aucune coupure. Voilà. Donc moi, je peux pas avoir d'impact sur les pubs. Voilà. Après, il y a les subs, mais les subs, c'est vous qui décidez. C'est pas le mode de comptabilisation des viewers, quoi. Donc ouais, ça a pas d'impact pour moi. Si tu actives les pubs, tu auras 2K en plus. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Mais j'ai tiré un trait là-dessus. Je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que je peux me le permettre, hein, parce que en fait, je préfère me faire des sous avec le sponsoring et les OP, plutôt que mettre des pubs, en fait. Ouais, c'est un choix que j'ai fait. Et l'OnlyFans, bien sûr, ouais. Sam, les pubs, tu peux les mettre au moment que tu veux. Il y a une commande pour. Oui, je sais, je sais. Mais moi, je fais plus de pause non plus. À une époque, je faisais des pauses café là au milieu là. Tu sais, je faisais des pauses café et 3 minutes, je vous envoyais de la pub. Mais je les fais plus les pauses. Donc, ouais. Allez, go. Le général Mandon et la guerre. On est à 55 minutes. C'est bien, on est bavard, ça tombe bien, on est là pour ça. Ok. Ok, je vous mets ça. Et jouez mon petit sommaire là. On met ça là. Et TikTok, je vous mets la flèche. Le général Mandon, quelqu'un me dit trop bien, j'ai fait une crise d'angoisse là-dessus hier. Ça m'en reparle, super. Mais nous, on va faire ça chill, nous, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. J'ai entendu le petit sub là. Merci, Ewodien. Et au Wedien, merci au Wedien, merci Wise, merci à tous les deux. Merci Mock, c'est incroyable. Bienvenue les amis, bienvenue dans la matinée Étienne, la revue de presse, 5 jours par semaine, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on est chill, on est cool, on est heureux. C'est sur Twitch en direct, c'est sur TikTok en direct depuis la rentrée, c'est sur Twitch depuis 5 ans, c'est en replay sur Twitch, sur YouTube, c'est en replay aussi en podcast audio depuis quelques semaines. Vous êtes très nombreux à m'écouter, je vous en remercie, en podcast audio, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. C'est parti, on commence par cette actu dont beaucoup me parlent depuis hier. J'ai vu que l'ami Jean Massier a fait un live hier après-midi où il en parlait, et je ne suis pas étonné. Les déclarations du chef d'état-major des armées en France, le général Mandon, voilà, où il a invité, ce sont ces mots qui ont créé le débat, la polémique, le pays à être prêt à perdre ses enfants face aux menaces qui touchent notre pays. Merci Ixos pour le prêt. Qu'a-t-il dit, vraiment? Qu'a-t-il voulu dire? Pourquoi a-t-il dit ça? Quel est le contexte? Quelles sont les réactions? Let's go, on commence avec un article du Parisien. En invitant le pays à être prêt à perdre ses enfants, le général Mandon, chef d'état-major des armées, a déclenché une polémique, mais il a aussitôt reçu le soutien de l'exécutif. Merci Felmat pour ton message qui fait plaisir. Crazy Barman. Franchement, tu me déçois, tes propos sur le Rassemblement national sont juste horribles. J'ai juste dit que c'était un parti d'extrême droite. C'est une définition politique et sociologique. Je n'ai aucune haine vis-à-vis de toi. Voilà. En revanche, si tu es électeur du Rassemblement national, j'espère bien que si tu viens nous voir tous les jours, j'essaierai de te donner des arguments pour te faire changer d'avis. Mais voilà, je ne suis ni en colère contre toi, je ne suis pas fâché contre toi. Je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te mettre de côté. Par contre, je vais essayer de te faire changer d'avis. Oui. Voilà. Et je n'ai pas à te décevoir car je n'ai pas à te valider. Je ne te valide pas. Je ne suis pas là pour valider tes idées. Je suis là pour échanger avec toi, même si on n'a pas les mêmes idées. Tu n'as pas à être déçu. Voilà. Électeur du Rassemblement national, vous n'avez pas à être déçu par Samuel Etienne, car vous n'avez pas à être validé par Samuel Etienne. Vous n'avez pas besoin de moi. Et vous, par contre, vous devez accepter que je ne pense pas comme vous. Et mieux, on peut même en parler ensemble. Let's go. Une escalade verbale. En écho à la pression croissante que la Russie fait peser sur l'Europe et la France. Une menace existentielle, avait déjà dit le président Macron en mars, soucieux de la stratégie offensive de Vladimir Poutine sur le continent. Endossant la feuille de route d'un réarmement moral de la nation. Décidément, il aime bien réarmer, hein. Le président Macron. Fixé par la Revue nationale stratégique en juillet, le général Fabien Mandon inscrit ses prises de parole dans le prolongement du discours présidentiel. Donc déjà, le Parisien nous dit merci Shell 21 pour ton soutien. C'est pas facile tous les jours, mais ça va. Je m'habitue. Le Parisien nous dit que déjà, la déclaration du général Mandon, elle est en ligne avec de précédentes déclarations du président Macron. Première info. Depuis qu'il est devenu chef d'état-major des armées le 1er septembre, c'est assez récent, il n'a de cesse de frapper les esprits afin que la population civile, ça c'est nous, hein. Merci à Amo PST pour l'abonnement offert à la commune. Merci à Favresse pour le troisième mois. À moins que certains soient soldats, militaires, pardon, dans le chat. Depuis qu'il est devenu chef d'état-major, il n'a de cesse de frapper les esprits afin que la population civile se prépare à un conflit de haute intensité contre la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va en parler plus tard. Est-ce que ça veut dire que... Salut les réservistes. Que les spécialistes de défense, les militaires français craignent une attaque de l'armée russe contre la France, contre la frontière, quoi. Pas tout à fait. D'après ce que j'ai lu un peu plus loin. Mais en revanche, qu'ils attaquent un allié de la France en Europe, oui. Après avoir évalué le risque de ce choc à un horizon de 3-4 ans, lors de son audition devant les parlementaires en octobre, il a enfoncé le clou mercredi en appelant les maires, réunis en assemblée, à en parler dans leur commune. Hein, ce qu'il nous manque, et c'est là où vous jouez un rôle majeur, a dit le militaire ou maire, M-A-I-R-E-S, c'est la force d'âme pour protéger ce que l'on est, a-t-il encouragé. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre des enfants, et certains le disaient dans le chat, quand il dit perdre des enfants, c'est perdre des soldats, hein, je pense que c'est ça dont il parle. Car il faut dire les choses, a-t-il dit, de souffrir économiquement, parce que ses priorités et les priorités du pays iront à la production de défense, alors on est en risque. Donc, bon, le général Mandon a dit au maire, les gars, il faut un peu préparer les esprits. Voilà, les enfants de la patrie, c'est ça. À perdre peut-être des soldats, et que l'économie en souffre, puisque du coup, l'argent qu'il faudra consacrer à la défense, eh ben, on ne le mettra pas ailleurs. Alors, évidemment, il y a des gens qui estiment que la Russie n'est pas une menace pour la France. Il y a des gens qui estiment que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. Il y a Cotan qui écrit, par exemple, dans le chat, mais c'est, pourquoi mentir comme ça ? Il n'y a aucune menace contre la France. Souvent, ces gens sont les mêmes qui disaient, il n'y a pas très longtemps, qu'il n'y avait pas de menace non plus contre l'Ukraine. Il y a des partis en France qui, si vous prenez les mois qui précèdent l'attaque de l'armée russe contre l'Ukraine, des partis en France qui disaient qu'on racontait n'importe quoi, qu'il n'y avait aucune menace russe contre l'Ukraine. C'est à peu près les mêmes gens aujourd'hui qui disent qu'il n'y a aucune menace de la Russie contre un autre pays européen que l'Ukraine. Je dis ça, je dis rien. Les amis, que vous soyez pro-russe, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, bot russe, bon, pour des raisons que je détermine un peu plus, ou pas, peu importe, vous avez le droit de l'exprimer ici. Par contre, je vais pas faire un débat d'une heure avec vous, parce que l'Ukraine, j'en parle depuis le début de cette guerre, un peu plus loin avant, et je sais que vous existez, heureusement, vous êtes minoritaire dans notre pays, heureusement, quoi. Donc je vais pas non plus vous consacrer plus d'attention que ça, je suis désolé. Après, vous avez des comptes qui sont sur Internet qui pensent comme vous, vous avez même des chaînes YouTube qui pensent sûrement comme vous. Si ça vous fait plaisir de penser que la Russie n'est pas une menace ni pour l'Ukraine, ni pour l'Europe, ni pour la France, bon bah je pense que je vous ferai pas changer d'avis. Mais écoutez quand même ce qu'il y a dans les articles qu'on va lire ce matin. Les propos « va-t-en-guerre » de cet ancien pilote de chasse, un ancien pilote de chasse, c'est un aviateur, qui a mené des missions au Tchad et en République démocratique du Congo, ont immédiatement déclenché un tollé dans la classe politique, les oppositions dénonçant de concert une dramatisation des dangers. Il y a eu des réactions politiques. Alors, ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières, s'est indigné Jean-Luc Mélenchon, LFI, tandis que Sébastien Chenu, RN, s'est interrogé sur sa légitimité, évoquant une faute. C'est intéressant, parce que deux partis quand même très très différents, mais qui s'en sont pris au même homme. Ce qui a pu choquer, c'est la force de l'image, en parlant de perdre ses enfants. Reconnaît un député LR, Jean-Louis Thiérault, est-ce qu'une parole aussi puissante devait être prononcée par un officier général plutôt que par un politique ? Il y a Cotan qui est toujours avec nous, qui a le droit de s'exprimer d'ailleurs, mais qui fait exprès de ne pas vouloir comprendre. Parce que je suis sûr que tu es bien plus malin que tu ne veux nous le faire croire. Cotan écrit « Non mais c'est ridicule, explique alors concrètement le plan de la Russie pour attaquer la France, je suis curieux. » C'est amusant, tu fais... Enfin, comment dire... C'est drôle. Qui a parlé ici d'un plan russe pour attaquer la France ? Pourquoi vous voulez pas juste rester sur les choses réelles, quoi ? Hein ? La fameuse inversion de la preuve, quoi. Pourquoi vous êtes obligé de parler d'autres choses ? Pourquoi, par exemple, quand je reçois des mails actuellement sur le RN, on me parle de Staline ? Vous voulez pas rester sur le truc dont on parle plutôt? Voilà. Explique-nous pourquoi, comment tu veux. Explique-nous pourquoi, puisque tu es avec nous ce matin que tu as envie de parler, explique-nous pourquoi tu as envie de légitimer la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, par exemple. Parce que c'est ça le fond du problème. Restons sur ça, restons sur l'essentiel, restons sur la guerre actuelle. Explique-nous, essaie de nous expliquer pourquoi toi, parce qu'à mon avis c'est ton sujet, tu veux légitimer la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vas-y. Plutôt que de nous emmener sur le plan russe pour attaquer la France, qui à ce jour n'existe pas. Là, on t'attend. Je pense que ça va être plus compliqué. Vous me dites si l'article, si l'explication limpide de la légitimation de l'attaque de l'armée russe contre l'Ukraine arrive. Là, je vais poursuivre l'article pendant ce temps. Donc la question c'est, est-ce que cette parole aussi puissante devait être proposée par un militaire, énoncée par un militaire, voilà, plutôt que par un politique? Mais il déplore, ce député, une tempête dans un verre d'eau, tant le fond du propos est en adéquation avec la ligne de la revue nationale stratégique. Le chef de l'État, actuellement à l'île Maurice, dans le cadre d'une tournée africaine, n'a pas réagi, puisqu'on parlait d'un soutien de l'exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire, soutien de l'exécutif? Mais le gouvernement s'est empressé de monter au soutien du général Mandon. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a affirmé qu'il était pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces qui continuent de progresser, dans le but de consolider l'esprit de défense, cette force morale collective sans laquelle aucune nation ne pourrait tenir dans l'épreuve. Merci Anaïs qui dit « Bon, merci de faire cette émission, étant une personne qui stresse beaucoup, ça me fait du bien de voir quelqu'un débunker les choses. » Merci à toi. Je n'ai pas vu le message dans le chat, n'hésitez pas à me le mettre en avant sur la légitimation de la guerre en Ukraine par la Russie. Je ne l'ai pas vu. Mais si vous le voyez, vous me dites. Même écho à Ballard, c'est le siège de l'état-major, où l'amiral Nicolas Vaujour, qui est le chef d'état-major de la marine, a rappelé que c'est son rôle d'anticiper les scénarios et de s'y préparer. Dans les cercles politico-militaires, d'autres, tout en approuvant le fond du discours, regrettent le timing. Mandon, le général, n'a visiblement pas mesuré la huée qu'allait soulever ses propos. Une erreur d'appréciation d'autant plus dommageable que les parlementaires débattent en ce moment même du renflouement de l'enveloppe budgétaire allouée aux militaires. Sujet sensible en contexte de disette. J'attends toujours la réponse de Cotan, qui est toujours avec nous, sur la légitimation de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. J'ai juste un message qui dit « Tout ça, c'est juste de la propagande, faire peur aux gens, il reste à savoir pourquoi. » Ouais. Nous, c'est un peu, t'es un peu en mode « Nous sachons quand même ». Non, il n'a pas été ban, il est toujours avec nous. Il n'y a pas d'insultes, on ne banne pas les gens ici qui ne sont pas d'accord avec nous si leur comportement reste OK, quoi. Donc il est toujours là et j'attends toujours des arguments un peu pour nous convaincre, mais qui tardent un peu, quoi. À moins que son discours ne vise à mettre la pression sur les députés pour voter ses rallonges. Ah, est-ce que le discours vise à mettre la pression sur la nation, sur les députés pour voter ces rallonges budgétaires pour la défense? Ah, vraie question. Ce serait alors un jeu inutilement risqué, estime en off un connaisseur du dossier, dans la mesure où il existe un consensus sur cette augmentation du budget de la défense. Reste la question de savoir si le général, qui est très proche de Macron, dont il était le chef d'état-major particulier à l'Élysée avant de rejoindre Ballard, est en service commandé du président. Selon nos informations, ce dernier n'a pas été informé de la teneur de son discours, mais il n'en reste pas moins que cet électrochoc est voulu au sommet de l'État, où on fait le constat que les Français n'ont pas pris la mesure de la menace russe. Ok, ça commence à se clarifier un petit peu, ce discours. Et il intervient à l'approche d'une possible annonce présidentielle sur la création d'une nouvelle forme de service national volontaire, sur la base du volontariat dont on a parlé déjà ici. On n'est pas en guerre. Mais on n'est plus vraiment en paix, confie-t-on à Matignon, en pointant les actions de déstabilisation menées par les proxys de Poutine, les soutiens Les soutiens de Poutine, survol de sites stratégiques par des drones, étoiles de David taguées sur des immeubles, têtes de cochons déversées devant des mosquées, attaques informationnelles massives dont on sait aujourd'hui, après enquête, qu'elles viennent de Russie. D'où la détermination de Macron à réglementer les réseaux sociaux, perçus comme un champ d'ingérence et un risque majeur pour la démocratie. Hein? D'où aussi la mise en ligne ce jeudi d'un manuel de survie et de résilience à destination des Français invités à la vigilance. Une opération tous azimuts afin de dissuader la Russie de ses velléités de guerre, hybride aujourd'hui, frontale peut-être demain. Mais je vous ai mis plusieurs articles sur le sujet. Parce qu'en fait, le sujet est complexe et je pense qu'on a besoin de plusieurs articles, plusieurs regards pour comprendre au plus proche cette histoire, quoi. Je vous lis, hein. Ouais, je sais, Bellero fond. Je l'ai vu, cette enquête. Je vous cherche des bons articles là-dessus. Je trouve qu'il y a un gros décalage entre le discours et la réalité, qui est que l'État ne prépare pas les Français à la guerre, dit Fu Manzu. Un peu les deux, Ad Deb, pour répondre à ta question. Alors en fait, bébé Yonersa, on a répondu à ta question déjà. À l'instant, mais tu viens de nous rejoindre, je pense. C'est lunaire de dire que nos enfants vont mourir à la guerre alors qu'on est en 2025, nous avons une armée professionnelle. Nous avons une armée professionnelle. Dans ce cas, pourquoi avoir supprimé le service militaire si c'est pour envoyer des civils non formés dans une éventuelle guerre? Non, non, le chef d'état-major, quand il parle des enfants, être presque nos enfants tombent, c'est les enfants de la nation, de la République, de la France, c'est-à-dire les soldats. C'est une périphrase en fait, on va pas envoyer littéralement des enfants, ni des Français civils. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que sur les monuments aux morts en France, pour les deux guerres mondiales, je crois que souvent sur les monuments, c'est nos enfants tombés pour la France, c'est pas l'expression comme ça. Mais c'est pas l'expression consacrée sur la plupart des monuments aux morts, nos enfants tombés pour. C'est ça. C'est enfants dans ce sens. Enfants de la patrie, quoi. Allons, enfants de la patrie, etc. C'est ces enfants-là, quoi. C'est... Voilà. On est d'accord. Les enfants de la nation. Merci. Mais je comprends maintenant pourquoi cette déclaration a créé beaucoup d'émoi, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris cette déclaration, les enfants, au premier degré. Enfants civils, quoi. Ok. Alors maintenant, on a vu ce qu'on disait à Le Parisien, qu'on pense Libération va prendre le temps un petit peu. Bah, Defecator estime que c'est quand même une erreur de com, que c'était maladroit. Qu'en pense Libération, puis on verra ce qu'en pense Le Figaro aussi. Merci Narwalo. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci Amo. Merci à Fabresse. Merci Ixos. Vous êtes incroyables. Je crois qu'il y a plein de gens que j'ai pas remercié. Ixos, merci encore. Que dit Libération? Il y a un édito de Thomas Legrand sur la question. Allons, enfant de l'apathie. Rien à voir avec Jean-Michel Apathie. Hein. Vraiment. Heureusement que spontanément, les jeunes Français des deux sexes ne bombent pas le torse en masse et ne manifestent pas en première intention comme n'importe quel djihadiste ou ultranationaliste une ardeur particulière à l'idée d'aller abreuver nos sillons du sang impur de nos ennemis. Nos monuments aux morts dans chaque village sont la preuve que le sacrifice massif de la Première Guerre mondiale n'a pas empêché 20 ans plus tard la Seconde. Hein? C'est vrai que ceux qui avaient vécu la Première Guerre mondiale espéraient bien que ce serait la première et la dernière. Alors oui, il y a une réticence naturelle à servir à nouveau de chair à canon. Le plus jamais ça de 1918 a perdu toute crédibilité en 1940 et la génération d'après-guerre a chanté le déserteur avec Vian. Et mourir pour les idées, d'accord, mais de mort lente avec Brassens. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de la der des der, tout à fait, vous avez raison. Depuis, toute idée de guerre sur notre territoire européen avait disparu. C'est vrai qu'il y a encore peu de temps, on estimait que un conflit, une guerre sur le continent européen était devenue une idée éloignée, sinon impossible. Et puis la guerre en Ukraine nous a montré que c'était encore possible. Comme le dit le nettoyeur, la guerre n'est jamais très loin. Depuis, toute idée de guerre sur notre territoire européen a disparu. Mais aujourd'hui, qui peut affirmer que la jeunesse française est désengagée? Qui peut dire qu'elle n'a pas le caractère requis pour défendre ce en quoi elle croit? Rappelons-nous les forces politiques autoritaires qui déploraient dans les années 30 la féminisation de la race française. La perte du sens de sacrifice patriotique d'une génération d'hédonistes qui votait les congés payés, hein, 1936, Front Populaire, Léon Blum, plutôt que de s'enrôler comme les fascistes italiens et les nazis dans les milices viriles et guerrières. Ce sont ceux-là qui finalement, hein, ces miliciens, ces nazis, qui ont fourni l'idéologie et les cadres de la reddition et de la collaboration. Les propos du chef d'état-major des armées françaises sont ceux d'une époque révolue, estime Libération. Ceux d'un temps pas très lointain où la guerre chez nous, à l'ancienne, fusil à la main, paraissait inimaginable. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque, dit le général. Mais quand sait-il? Mais quand sait-il? L'état d'esprit des Français ne peut pas être catégorisé ainsi. Va-t-en guerre, d'un côté, prêt à envoyer leurs enfants au front, versus pacifiste, utopiste, ou inconséquent, versus quoi? Non, personne ne peut affirmer que les Français, singulièrement les jeunes, n'ont plus le sens de l'engagement, ni de l'éventuel sacrifice pour leur pays, la liberté ou une cause qui les dépasse. L'attitude inattendue et héroïque du peuple ukrainien montre qu'il ne faut pas préjuger de la réaction de la jeunesse devant un danger imminent. Ce n'est pas en temps de paix, à deux frontières, Allemagne-Pologne, et à 2000 km du front russo-ukrainien, que l'on peut juger de la nature du caractère des classes d'âge potentiellement mobilisables. C'est une lubie des contemporains de chaque époque de prétendre que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus taillée pour se battre. On ne peut juger de la force de caractère de quiconque, individuellement ou collectivement, qu'au pied du mur de la guerre. Surtout, ce n'est pas un général de tenir ses propos dilibés. L'armée et ses officiers sont l'instrument de la défense nationale, l'outil au service de la sécurité, certainement pas directeur de conscience et sociologue. En vrai, c'est pas faux, ça. Alors, notre ami Cotan, qui nous régale depuis tout à l'heure, vient de nous citer la fameuse expression « homme soja ». Je vais écrire un livre, moi, sur ça. Il y a les perles du bac, il y a les perles du chat. Hein. Je pense qu'il y a moyen de choper un Goncourt. Hein. Enfin, ou à tout moins de faire un vrai succès d'édition. Un jour, je vais juste prendre mes lives, je vais noter les meilleurs. Hein. Cotan, tu auras un paragraphe. Hein. « Homme soja ». Putain, mais faut arrêter de s'informer sur Facebook et TikTok, les gars. Hein. Et puis d'être enfermé dans des bulles informationnelles de comptes qui sentent le moisi, quoi. Vous faites du mal, vous niquez votre cerveau. Hein. C'est comme la bouffe. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y a plein de merde dedans désormais. On a fait un dossier là-dessus récemment. Mais la nourriture intellectuelle, c'est pareil. Là. Arrêtez de vous nourrir de merde, en fait. Parce que quelle que soit votre intelligence, vous niquez la santé mais intellectuelle, du coup. Hein. Je poursuis. Mais je suis d'accord, hein. C'est pas forcément un général de tenir ses propos. Dans une démocratie, dans une république, l'armée, elle est au service de la nation, du peuple. Et c'est pas aux militaires, je crois que Libération a raison là-dessus, de tenir de telles déclarations. Même si sur le fond, on peut être d'accord avec lui. Vous voyez la différence? Merci Fabili. La volonté de défendre notre démocratie doit venir d'une aspiration populaire et de ceux, les politiques, qui sont censés la représenter et l'exprimer. Après l'achage de l'Amérique qui sombre dans le techno-autoritarisme, l'Europe est devenue un îlot de démocratie libérale assiégée. Ça, c'est vrai. Si on est attaché à la préservation de ce modèle, qui fait de notre continent le petit bout de terre le plus libre du monde, voilà, même si certains aimeraient habiter ailleurs, hein, il faut effectivement se préparer à se battre et à, sans doute, faire des sacrifices. Le débat est légitime car ces choses-là se préparent. Le fait que le RN et LFI aient vivement réagi aux propos du général Mondon ne dit rien sur leur penchant pacifiste ou belliciste, mais tout sur leur positionnement politique. Ces deux mouvements, diversement pro-russes, n'ont pour des raisons opposées pas voulu voir le danger pour l'Ukraine avant l'invasion. Pour des raisons opposées. Leurs idéologies, bien qu'opposées, ne les portent pas ni l'un ni l'autre à vouloir sacrifier des vies pour défendre la démocratie libérale. Voilà. Ce n'est que... Mesdames et messieurs, nous avons un raid à l'instant de la GOAT. Voilà. Un raid dont je suis très très fier. De quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Madame Elidia, mesdames et messieurs. Merci pour ce raid, Elidia. Je sais que tu étais en caste ce matin sur du Valo. J'ai pas compris si tu étais... à l'étranger, peut-être en Corée du Sud. Voilà. Et en tout cas, sache que j'étais très content de te voir en live. Très content de te voir en live. Et c'était en Corée, c'est ça? Et on a gagné, mais qui a gagné du coup? J'étais très content de te voir en live. C'était AKC? C'est AKC qui jouait? Tu es en Corée? Ouais. J'étais très content de te voir en live. Et j'étais en train de me dire justement, j'ai failli t'envoyer un message il y a un ou deux jours là-dessus, mais je voulais pas t'embêter. Quand est-ce qu'on te revoit, quoi? Donc voilà, rien que ça, te voir en live, c'était super. Merci beaucoup. Merci de ce raid. Ouais. Et je pense que tu vois comme moi tous les messages dans mon chat pour toi. Voilà. Et sache qu'on est là pour que tu puisses continuer à travailler et à streamer dans de bonnes conditions. Voilà, je te l'ai déjà dit et je te le dis ici devant ma communauté. Voilà. Amis de TikTok, on est sur Twitch, vous connaissez le principe du raid. C'est la streameuse Elydia qui vient de nous envoyer sa communauté ce matin après avoir casté des matchs de Valo depuis la Corée du Sud. Et Julien, dans le chat TikTok, nous dit, on lui envoie des cœurs aussi. Force Lydia. Donc, ami de Lydia, on était en train de se pencher sur la déclaration du général Mandon, qui est en train d'essayer de préparer les esprits à la guerre. Mais quelle guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? Notamment en disant qu'il fallait se préparer des sacrifices, quelque part. Donc on continue l'article de Libé. Est-ce que Libé nous dit autre chose? Parce qu'il y a l'article du Figaro aussi qu'on va lire là-dessus. Je vais à la fin de l'article de Libé, puisqu'on a déjà lu l'édito de Libé, puis après on ira lire l'article du Figaro. La fin de l'article de Libé, il dit ça. Il est loin le temps où l'Occident pensait pouvoir profiter des dividendes de la paix. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant montré qu'il n'est jamais prudent de relâcher sa capacité à défendre un pays, un continent et ses acquis démocratiques. Est-ce un hasard? Le gouvernement vient de publier un guide pratique pour aider chaque citoyen à se préparer aux situations de crise. Je voulais vous en parler de ce guide aussi. Je pense que j'aurai l'occasion de le faire. Qui s'inspire de ceux publiés en 2024 par la Suède et la Finlande, qui sont un petit peu plus à l'est que nous. Suivez mon regard. Il reste qu'affoler les maires, MAIRES, et les maires, M, accent grave, RES, n'est pas forcément le meilleur moyen de les préparer aux nouvelles menaces. Cela peut aussi, à l'inverse, pousser à réagir par la moquerie ou par le déni. Rien de tel que l'éducation aux réalités d'aujourd'hui et de demain pour entretenir en douceur le brouillard de la guerre. Bon. Le Figaro est un autre journal qui, souvent, a un regard différent sur l'actualité. Je vous ai mis aussi un article du Figaro là-dessus pour voir s'il y a des différences avec ce qu'on a lu dans Le Parisien, dans Libé. Et après, je vous lirai aussi parce que votre avis m'intéresse tout autant. Le général Mandon choque pour préparer les esprits. Le général Mandon a décidé de choquer, écrit le Figaro ce matin, parce que le temps file dangereusement. Lors de son intervention mercredi devant les maires, il a lancé un avertissement retentissant comme les sacrifices à faire, humains comme financiers. Okay. L'hypothèse d'un affrontement avec la Russie, puisque quelqu'un dans le chat, et c'est très intéressant, qui vient de la commune d'Elydia, me dit, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment on serait intégré au conflit. Mais je me pose la même question. Qu'est-ce que ça veut dire un conflit avec la Russie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose la même question. Je crois que dans le Figaro, il y a quelques éléments de réponse. L'hypothèse d'un affrontement avec la Russie fait partie des hypothèses que les armées européennes, et pas seulement françaises, préparent désormais avec inquiétude. La Russie se prépare, je le sais, a-t-il affirmé le chef d'état-major français. Il a évoqué l'horizon 2030. Il a demandé à ses soldats d'être prêts dans 3 à 4 ans. Mais le calendrier est potentiellement plus incertain. Partout en Europe, la possibilité d'un conflit à brève échéance est étudiée. De l'autre côté du Rhin, l'Allemagne envisage également un scénario noir. Dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a évoqué une accélération. Qu'a dit le ministre allemand de la Défense? Les experts militaires et les services de renseignement peuvent évaluer quand la Russie aura régénéré ses forces et pourra être en mesure de mener une attaque contre un membre de l'OTAN. Pas forcément l'Allemagne. Pas forcément la France. En fait, cette agression militaire éventuellement de l'armée russe contre l'Europe, ce serait contre un État membre de l'OTAN en Europe. Voilà. Donc ça se précise un petit peu. Quelqu'un me disait, mais quelle menace exactement? Nous avons toujours dit que cela pouvait être le cas à partir de 2029. Mais certains disent que ce serait envisageable dès 2028. Certains historiens militaires pensent même que nous pourrions avoir vécu notre dernière été en paix. Merci petit ours Mimi, petit ours Mimi. Merci Fabili. Alors Tax me dit le nord de l'Europe, Dars me dit l'Estonie, la Lituanie, Dars Aliot les pays baltes. Voilà. Quelqu'un tout à l'heure un peu pro-russe, excuse-moi de te résumer comme ça parce que évidemment que ta pensée sur le sujet est beaucoup plus complexe que ça, mais parfois c'est compliqué de résumer les idées. Quelqu'un un peu pro-russe nous disait mais je montre-les-moi Samuel les plans d'invasion de la France par l'armée russe. Mais chouchou, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pas a priori de ça dont on parle. Merci Fleur de Licorice. Aujourd'hui, tu vois, manifestement, c'est une agression, une attaque à court terme, d'ici quelques années, contre un État européen membre de l'OTAN. Attaque militaire, parce que des attaques d'autres types, notamment numériques et autres, il y en a déjà. Si Vladimir Poutine a décidé de tester l'Alliance Atlantique, ce qu'il ne cesse de faire, hein, il réfléchit à une fenêtre d'opportunité pour passer à l'acte. Une course contre la montre est enclenchée. À la fin de la décennie, l'armée russe pourrait compter 2 millions de soldats, a prévenu le général Mandon. Elle produit la Russie plus de matériel militaire qu'elle ne consomme en Ukraine, a-t-il ajouté. On a une économie russe aujourd'hui qui est extrêmement tournée vers l'effort de défense. Mais si, c'est pas de la défense d'ailleurs. Enfin, c'est le terme générique, quoi. Ministère de la Défense. Lorsqu'il était ministre des Armées, Sébastien Lecornu ajoutait qu'un arrêt des hostilités en Ukraine permettrait mécaniquement à Moscou de compléter ses stocks à une cadence plus rapide. À courte échéance, la Russie ne semble pas en mesure de mener à la fois un effort de guerre en Ukraine et de risquer une confrontation ailleurs. Mais si elle obtenait une démilitarisation partielle ou non de l'Ukraine, et tout à l'heure on va parler du plan de paix de Trump pour l'Ukraine, qui justement fait plutôt les affaires de la Russie, elle pourrait redéployer ses ressources, elle a déjà commencé à repenser son organisation militaire aux frontières de l'Europe. Pour analyser le calendrier, il y a pas mal l'article du Figaro, hein. Pour analyser le calendrier d'une confrontation, les experts militaires, au sein des services de renseignement comme de l'état-major, croisent la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine, l'état de l'armée russe, l'état des armées occidentales, les scénarios d'un choc avec l'Occident et le contexte géopolitique. Et au bout du compte, il reste la décision ultime et secrète d'un autocrate, Poutine. L'analyse est subjective, admet un expert. Qu'est-ce que nous dit cette phrase que, évidemment, cette équation d'une éventuelle nouvelle attaque de l'armée russe contre un pays européen est le résultat d'une équation éminemment complexe et personne ne sait assurément si cette guerre se produira ou pas. En fait, c'est juste une inquiétude, c'est un risque. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. La fin du mandat de Trump en 2029 fait partie des données de l'équation. Le président américain aurait-il la volonté, les moyens de s'opposer à une montée en agressivité de Poutine? Quelles seront les priorités stratégiques de son successeur élu en novembre 2028? Les relations entre les deux rives de l'Atlantique pourraient être au point le plus bas entre donc l'Europe et les États-Unis. Le vice-président J.D. Vance ne cache pas son désintérêt pour l'Europe. Au-delà de l'appréciation de Donald Trump, les États-Unis considèrent par ailleurs leur compétition pour leadership mondial avec la Chine comme prioritaire, plus importante que leur relation avec l'Europe. La question ici posée, c'est est-ce que l'affaiblissement de la relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis pourrait inciter Poutine, en gros, à déclencher une guerre avec un pays européen de l'OTAN ? À la question de la date du choc s'ajoute celle de sa nature. Les cellules de prospective de l'état-major comme les think tanks ont commencé à travailler sur des scénarios. Quelle forme prendrait cette guerre? Quel pays pourrait être attaqué? À quel timing? Dans son discours, le général Mandon a précisé qu'il ne s'agirait évidemment pas de défendre l'Alsace contre des chars russes. La menace aujourd'hui n'est pas celle d'une attaque de l'armée russe contre les frontières françaises, mais de s'engager par solidarité avec un État du flanc Est qui subirait une attaque. C'est pas mal l'article du Figaro, parce qu'il précise bien les choses quand même. Les plans de défense de l'OTAN se focalisent sur la menace d'une invasion, une tentative russe de prendre un gain territorial dans un pays balte, ou autour du corridor de Suwalki, qui sépare l'enclave de Kaliningrad de la Biélorussie. La Russie testerait donc la solidité de l'article 5 de l'Alliance Atlantique, l'article de solidarité hein, entre pays membres de l'OTAN. Dans un long article spécialiste des questions militaires, Stéphane Audran a exploré le scénario d'une nouvelle bataille de l'Atlantique en jugeant les moyens européens insuffisants face à des opérations de drones sous-marins et de sous-marins russes. La Russie pourrait être tentée d'agir dans d'autres domaines où elle détient des capacités déjà prêtes à l'emploi. Elle dispose de moyens d'action dans l'espace, alors que les Européens n'en ont pas encore. Dans le cyber, où le temps de préparation de prépositionnement est crucial, où les capacités de nuisance de la Russie sont déjà établies. La menace a été jugée particulièrement inquiétante par le nouveau commandant de la cyberdéfense, le général Naegelen. L'hypothèse d'une confrontation divise cependant les spécialistes, certains considérant que l'agressivité de la Russie vis-à-vis de l'Europe est aussi la conséquence du soutien occidental à l'Ukraine. Sous-entendu, si les Européens entendent les inquiétudes russes sur l'extension à l'est de l'OTAN, Moscou pourrait faire retomber la pression, hein, certains le pensent, mais ça n'est pas l'analyse du général Mandon. Poutine observe le réarmement européen et constate inévitablement sa lenteur. S'il veut tenter un coup de force, le président russe pourrait tenter à un moment d'accélérer, même si ce scénario paraît irrationnel. On ne veut pas croire. On ne veut pas croire à une attaque de l'armée russe contre un autre État européen. Mais on était très nombreux aussi à ne pas croire à une attaque de l'armée russe contre l'Ukraine. Les services de renseignement français ne croyaient pas en 2022 à l'invasion de l'Ukraine. Tant elle leur paraissait vouée à l'échec. Le président russe a quand même déclenché la guerre. Alors, vous voyez, c'est intéressant de lire plusieurs articles, parce qu'on a lu l'article du Parisien sur « Mais qu'est-ce qu'a voulu dire Général Mandon ?» L'article de Libération qui disait « Oui, c'est pas aux militaires de parler de ces sujets, c'est aux politiques. » Voilà. Et puis on a l'article du Figaro qui précise la menace dont on parle. Alors c'est, et puis vous faites votre avis. Mais là, on est dans le domaine de la boule de cristal. Ceux dans le chat qui sont persuadés. Moi, j'ai lu plusieurs lignes dans le chat. Il y a ceux dans le chat qui sont persuadés qu'on nous fait peur pour rien. Que jamais l'armée russe va attaquer un autre État européen que l'Ukraine. Bon. Il y a ceux qui estiment possible que cela arrive. Il y a ceux aussi qui estiment que si ça arrive, c'est pas notre problème. Hein, j'ai lu quelques messages en ce sens. C'est pas ma guerre, c'est pas notre guerre. Hein. Le problème, c'est que ça a été aussi le comportement des pays européens, et notamment de la France, devant la montée de l'Allemagne nazie en 1938, avec Munich, hein, où on a baissé la tête devant Hitler en se disant « Bon, il ira pas plus loin, quoi. » Je sais pas si le Tonneton, c'était pas un ban, c'est pas un misclick. Ton dernier message me semble pas si problématique. Si? Peut-être un misclick. Voilà, c'était un misclick. Parfois, des petits misclicks, ça va trop vite le chat. Merci les modos, vous faites un travail incroyable. Je vous lis un petit peu, hein, on va prendre le temps. Alors, Eau Charru estime, Poutine est impérialiste. Il colonisera tout ce qu'il pourra tant qu'on le laissera faire. Voilà. Rimek, je trouve ça très limite de ne pas se sentir concerné. Si on n'aide pas nos voisins, ce sera notre faute après si ça arrive. La crise des Sudètes, exactement. Ouais. Pomme Cannelle, c'est pas ma guerre jusqu'à ce qu'elle vienne frapper à ta porte. Et là, c'est un peu tard pour réagir. Merci, Shihiro Nice Play. Perso, j'aimerais juste comprendre pourquoi on nous signale cette situation alarmante à nous spécifiquement. Bon, on n'est pas le seul pays européen à s'inquiéter. Hein. Moi, je dirais même qu'on est peut-être un des pays européens à s'inquiéter le moins du sujet. Manifestement, à l'est de nous, des pays les plus proches de la Russie, et notamment en Allemagne, on est en train d'y penser très très fort. Donc, c'est pas à nous spécifiquement. Deux, c'est parce que, évidemment, si demain un pays européen membre de l'OTAN et donc allié à la France est attaqué par la Russie, nous devrons, nous, Français, dire ce que nous en pensons. Et c'est bien de commencer à en parler maintenant, peut-être. Si jamais la question se pose. Je vous lis. Je suis en train de vous lire. J'ai eu beaucoup de messages pour dénoncer notre passivité, mais j'essaie de lire des messages hein, aussi des gens qui pensent autrement et qui pensent qu'on nous ment et qu'on nous alerte, et qu'on nous inquiète pour rien, quoi. Mais s'il n'est pas en capacité de gagner la guerre face à l'Ukraine, très bonne question de Foxart, comment peux-tu espérer vaincre l'Europe entière? Mais je ne crois pas que ce soit la crainte des militaires. La crainte des militaires, si je la comprends bien, notamment de l'état-major français, c'est que Poutine, une fois signé une paix avec l'Ukraine, potentiellement à son avantage avec l'aide volontaire ou involontaire de Trump, puisse s'intéresser à d'autres petites parties du territoire européen, revendiquées comme russes par Poutine au nom de son regard et de son qu'il porte sur ce qu'est la Russie ou ce que devrait être la Russie, et donc continuer à revendiquer des parts, même infimes, de territoire, aujourd'hui non russe, demain potentiellement russe. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à l'Europe. Le pari étant que l'Europe laisse faire, en fait. Je ne crois pas que Poutine ait envie de se farcir l'intégralité des armées européennes contre lui. J'étais en Pologne et dans les Pays-Baltes en 2021, me dit Foie Jaune. Déjà, les gens me parlaient à l'époque des graves dangers de Poutine et du pantin biélorusse. Klamakine, on peut dire que cette sortie médiatique du général Mandon est une erreur, mais elle a au moins l'intérêt de dénoncer les risques auxquels l'Europe et la France sont confrontées à l'avenir. La Russie est une menace actuelle et future pour nous. J'ai vécu en Pologne pour mes études, me dit joueur artiste. Merci Takeshi Kovacs, comment vas-tu? En Pologne, donc, il se prépare là-bas vraiment à un truc de grave, la frontière est devenue une vraie forteresse. Allez, je lis encore un ou deux messages et j'enchaîne parce que le débat est passionnant, mais j'ai mille actualités à vous lire ce matin. Mais on prendra le temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actu, quoi. Lazarette 59, on peut aussi analyser comme certains spécialistes du Kremlin que Poutine et son régime ne tiennent que par la guerre. Le régime russe est désormais en économie de guerre, ce qui est vrai, et a trop investi dans le conflit pour pouvoir repasser à une organisation normale de paix. Comment gérer les retours du front? Comment gérer l'économie uniquement tournée vers l'armement aujourd'hui? L'État qui contrôle la sphère privée ne relâchera pas son contrôle. C'est intéressant ça. Expliquer le caractère belliciste de Poutine et son envie potentielle de déclencher de nouveaux conflits par le fait que son pouvoir tient peut-être aujourd'hui uniquement à ça, quoi. Ou principalement à ça. Intéressant. Bon, en tout cas, merci pour votre investissement parce que c'est quand même un débat aride, anxiogène aussi, et malgré tout, vous échangez beaucoup et je vois beaucoup d'efforts de réflexion, c'est assez fascinant, quoi. Mister Julien, bien que le discours du général soit un peu maladroit, bon, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, il montre bien la déconnexion des Français vis-à-vis d'un potentiel conflit avec la Russie. Lazarette 59 encore, le pari de Poutine étant que ses alliés objectifs au sein de l'Union européenne arrivent au pouvoir et laisseront faire la prochaine annexion. Un président français proche de Poutine et qui dirait mais on s'en fout des Baltes ne répondrait pas militairement à une agression russe et la France est le seul pays de l'UE doté de l'arme nucléaire. C'est vrai que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'UE. Ils ont l'arme nucléaire, les Britanniques, mais ils font pas partie de l'OTAN, les Britanniques? Quand même. Comme ça, je dirais que oui, non? Vite fait. Il y a Croque-Doux qui dit je ne veux pas de cette guerre. Mais qui veut d'une guerre? Qui veut la guerre? Enfin, si, on pourra en nommer quelques-uns. Mais qui veut la guerre? Personne. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, hein. Ni de diplomatie, ni de l'histoire des conflits. Voilà, je ne suis qu'un pauvre journaliste qui lit des articles. Mais la guerre, quand elle se déclare, quand elle s'impose à toi, tu as beau ne pas la vouloir et la souhaiter. C'est ça, membre de l'OTAN? C'est ça. Hein. Elle est là, quoi. Et en fait, c'est à ça qu'il faut éventuellement se préparer. Évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord pour souhaiter que aucun de ces conflits ne s'impose à nous, quoi. Hein? Bon alors, hasard de l'actualité, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais vous parler de Pétain ce matin parce que c'est le deuxième sujet. Je vais juste aller. Je me suis mis un peu de chauffage ce matin parce que vous êtes très froid, mais c'est trop. Je vais couper et on parle de Pétain. Bougez pas. C'est tout petit ici, là, ça chauffe vite. Merci Lexis. Alors, ok. Donc deuxième sujet, une messe pour Pétain. Donc la petite flèche sur le sommaire. Merci d'être aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir. Merci encore au Red Delia tout à l'heure. On est à 1h43, si je dis pas de bêtises. On prend le temps ce matin, c'est important, c'est des actus intéressantes. Importantes même. 1h43 et TikTok, je vous mets la flèche aussi sur le sommaire pour que ceux qui nous rejoignent sachent où nous en sommes. Hop. Donc, le général Mandon et la guerre, et maintenant une messe pour Pétain. Est-ce qu'il y a eu une messe en France pour Pétain? Enfin, pourquoi? Comment? Pourquoi ça crée du débat, etc. Une messe pour Pétain, c'est une tribune, en fait. C'est pas un article d'un journaliste, c'est un historien. C'est un historien qui s'appelle Marc Nobel et essayiste qui écrit une tribune dans Libération. Une messe pour Pétain relève du négationnisme. Et il s'adresse, cet historien, à Monseigneur Ballot, qui est l'évêque, je suppose, qui a célébré cette messe. Par son choix d'autoriser la messe en l'honneur du chef vichyste dans une église à Verdun, ah non, il ne l'a pas célébrée, il l'a autorisée. L'archevêque évêque de Metz a manqué à son devoir moral et historique, dénonce cet historien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je vous avoue que je n'ai pas trop suivi l'affaire. Samedi dernier, une messe a été célébrée à Verdun pour, je cite, le repos de l'âme de Philippe Pétain et des victimes de toutes les guerres. Ok. Autorisé par Monseigneur Philippe Ballot. Certains diront bien sûr que. Non, je ne vais pas la faire. Que c'est Ballot. Archevêque, évêque de Metz et administrateur apostolique de Verdun, cette cérémonie, impulsée par l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, ok, donc déjà elle existe, a immédiatement suscité l'indignation et la mobilisation, une controverse majeure pour l'Église soulevant de vives interrogations sur la mémoire collective et la responsabilité institutionnelle. La décision, oui c'est vrai, Pétain a perdu son grade de maréchal. Je ne devrais pas dire le maréchal Pétain, parce que on lui a enlevé son grade de maréchal. Tu as raison, je devrais dire Philippe Pétain. Tu as raison. La décision du tribunal administratif, qui autorisa la messe au nom de la liberté de culte, malgré l'interdiction initiale du maire de Verdun, n'a rien apaisé. De nombreux citoyens, élus, manifestants sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils percevaient comme la résurgence d'une forme de complaisance envers la mémoire du régime de Vichy. Qui n'est pas l'un des trucs que la France ait fait de plus fou en vrai. La responsabilité de Mgr Ballot dans cette affaire dépasse largement la simple autorisation administrative. Par son choix d'autoriser la messe pour Pétain dans une église à Verdun, il a manqué à son devoir moral et historique, validant une initiative qui ne pouvait qu'attiser la confusion mémorielle et offrir une tribune aux discours les plus négationnistes et antisémites. En mode, vous voyez bien, si on donne une messe à la mémoire de Pétain, c'est que le mec, il n'était pas si mauvais, hein. Malgré les mises en garde du maire, les protestations des familles, l'indignation de la société civile, l'archevêque de Metz s'est réfugié derrière une neutralité liturgique, laissant la porte ouverte à la réhabilitation symbolique d'un homme dont les actes, on va faire un peu d'histoire, pour ceux qui seraient tentés dans le chat de nous dire « Ah ouais, mais Pétain, en fait... » Vous savez, il y a certains historiens qui ont essayé de développer la thèse de ça me rappelle mes études, ça, de Pétain, le bouclier des Français. Mais en fait, Pétain, c'était l'ennemi juré des nazis, en fait. Mais en fait, il faisait mine de collaborer pour protéger les Français. Il y a eu cette thèse que certains historiens... Voilà, c'était la théorie du bouclier. Puis d'autres historiens ont dit, mais non, arrêtez vos conneries. Là. La justice française aussi a dit, arrêtez ces conneries aussi. Donc, faisons un petit peu d'histoire. Ce geste, rappelons... Voilà, ce geste loin d'apaiser ou d'éclairer a jeté l'institution ecclésiale dans une crise de légitimité et souligne à quel point une absence de discernement peut honorer la banalisation du négationnisme et de la haine. Voilà. Réhabilitation symbolique d'un homme dont les actes ont gravement déshonoré la France et infligé d'innombrables souffrances aux victimes du régime de Vichy. Rappelons les faits. Environ 76 000 juifs, dont plus de 11 000 enfants, furent déportés de France entre 1942 et 1944. La grande majorité exterminée dans les camps. À ces victimes s'ajoutent près de 3000 juifs morts dans les camps d'internement ou exécutés sur le sol français. La résistance intérieure paya elle aussi un lourd tribut. Environ 30 000 résistants furent fusillés ou exécutés, auxquels s'ajoutent 60 000 déportés, la moitié ne revenant jamais des camps. Les francs-maçons, pour leur part, subirent la persécution nazie et vichyste avec environ 1000 à 1500 victimes identifiées. Enfin, le régime a frappé des milliers d'indésirables et d'exclus. On estime que entre 3000 et 6500 nomades, je pense qu'on parle des gens du voyage là, furent internés dans les camps français sous Vichy, en plus des opposants politiques, des étrangers, des personnes handicapées ou réfractaires ou STO, voilà, internés ou déchus de leurs droits. Pour l'ensemble de ces crimes et de cette politique de collaboration, Philippe Pétain, d'ailleurs, était jugé par la justice française. Après la libération, a été reconnu coupable par la Haute Cour de justice le 15 août 1945. Retenu coupable d'intelligence avec l'ennemi, de haute trahison et d'indignité nationale. Il a été condamné à la peine de mort. Finalement commué en réclusion à perpétuité en raison de son âge avancé. Ces chiffres, tout comme le rappel judiciaire de sa condamnation, établissent la responsabilité directe du chef de l'État français, donc Pétain, dans les politiques criminelles du régime de Vichy et rendent impérative la préservation de cette mémoire collective. La tristesse, la fatigue et la honte dominent devant une telle régression. Mais la honte est aussi institutionnelle. Voir l'autorité ecclésiale cautionner, même indirectement une telle messe, et jeter la mémoire aux mains de ceux qui la falsifient et instrumentalisent la haine. La peur de cet historien, c'est que certains certains qui aiment réécrire l'histoire, hein, eh ben, pourraient se servir de cet argument. Mais vous voyez, même l'Église catholique en France a donné une messe à la mémoire de Pétain. Vous voyez bien que. Vous voyez bien que. Ce débat n'est pas une abstraction. Pétain vaut-il une messe? Vraiment. Comment peut-on prier publiquement pour l'âme de celui qui incarna la honte et la tragédie française? Voilà. C'est ici la responsabilité ultime, celle des institutions, Église comprise, face à la banalisation des discours antisémites et négationnistes de notre pays. Il appartient désormais à la Conférence des évêques de France de mesurer la gravité de ce geste, estime cet historien. La lutte pour la vérité historique, la fidélité à l'Évangile, le respect des victimes impose un refus clair de l'instrumentalisation mémorielle qui nourrit aujourd'hui encore la tentation du pire. En fait, autoriser cette messe était une ouverture de la fenêtre d'Overton, nous dit Tenry. Samuel, il y a certaines personnes qui justifient l'hommage de Pétain en disant qu'il y avait deux Pétains. Oui, c'est la fameuse théorie du Pétain bouclier, ouais. Portée historiquement plutôt par des représentants de l'extrême droite en France. Donc, je crois que Zemmour, notamment, a tenu cette. Je crois, hein, à vérifier. Hein, vérifier ma mémoire, c'est ce type de propos dans les médias. Je vous lis. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, on me rappelle les mots de Zemmour sur Pétain. C'était Pétain et il a sauvé les Juifs français. Oui, c'est la théorie du bouclier. Oui. Le fameux Pétain qui a sauvé des Juifs français, quoi. Quelqu'un me dit, mais Pétain, il est mort il y a 70 ans, est-ce qu'on peut parler d'actualité? En fait, on ne peut parler bien d'actualité que si on connaît son histoire. C'est ça. En fait, l'actualité, c'est l'histoire de demain. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce dont on parle, à Trump, Poutine, l'Ukraine, la crise politique en France, ce sera enseigné dans un livre d'histoire, dans quelques années, quelques décennies. Et en fait, l'histoire, c'est juste l'actualité d'hier. Et tirer les enseignements de l'histoire, c'est parfois éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors que si on s'intéresse un minimum à l'histoire, vous savez que les historiens ont prouvé que le régime de Vichy et Pétain avaient une responsabilité majeure et une participation active, notamment dans l'arrestation, la déportation des Juifs français vers les camps de la mort. Hein, ça, c'est un fait historique. Voilà. Intéressez-vous, par exemple, à l'exemple du vélodrome d'hiver, la rafle du Vel'd'Hiv. Pour comprendre le rôle actif qu'ont joué les autorités françaises sous les ordres de Laval et de Pétain dans l'arrestation, la déportation, notamment des Juifs français. Ok. On enchaîne? Bon. Je voulais vous parler de ce sujet quand même parce que beaucoup de médias en avaient parlé ces derniers jours et moi, je n'en avais pas parlé. Alors, pardon, on est sur des sujets importants, des sujets graves. Et ces sujets importants, forcément, ils provoquent des débats. Et je vous abreuve de ça le matin et je m'en excuse. N'oubliez pas que la vie, ça n'est pas que ça, ça n'est pas que se prendre la tête sur l'actualité ou l'histoire, c'est aussi vivre votre vie, et voilà, mais bon, à la fois, je pense que ce travail, il est important, il est essentiel, et en même temps, j'espère que je vous angoisse pas trop avec mes histoires. Alors, on va parler de féminicide, par exemple, mais ce sujet, il est dur, il est fort, mais il me semble essentiel d'en parler aussi. Voilà. 1h55. Pour ce troisième thème, les féminicides en France. C'est un dossier dans l'Humanité. C'est la une de l'Humanité même. Ok, TikTok, je vous mets la petite flèche. On n'en parle pas assez, me dit quelqu'un. Notre société, heureusement, elle commence à en parler et réfléchir sur ce sujet, mais peut-être, effectivement, pas assez encore. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Hop. Hop. L'inertie tue. C'est la lune de l'humanité ce matin. Féminicide. À qui Julien me dit qu'il y a eu encore un féminicide hier soir à Besançon. Depuis le 1er janvier, 145 femmes sont mortes, tuées par un conjoint, un mari, un ex, un fils. Ce fléau est aggravé par l'inaction politique et le manque de moyens. Rappelons que les violences faites aux femmes, c'est essentiellement dans le contexte de la maison, quoi, familiale, quoi. Les femmes sont beaucoup plus agressées chez elles que dans la rue, par des proches. Des gens qui les connaissent, que par des étrangers, des gens qui dans la rue, tapis dans le noir. Hein, la violence, elle, et la menace, et la mort, elle est là. Elle est plus dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, dans le hall d'immeuble, que dans la rue, quoi. Statistiquement. Dans la chambre, bien sûr. Ah bon ? Ah bah oui, Cachetaine. Tu vois, on est en 2025, on a un « ah bon ». Bah oui. Yeah. On a un « ah bon ». Bah oui. Les féminicides, en France, statistiquement, c'est à la maison. Lisons le dossier et les chiffres, puisqu'on a eu un « ah bon ». Voilà. Donc ça veut dire que ces chiffres-là, ils sont pas connus, quoi. C'est intéressant. Donc ça montre bien qu'il faut en parler, quoi. En France, en 2025, déjà 145 féminicides. Elles ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint, de leur ex, de leur fils. Alors fils, j'ai pas la ref, mais il y a eu d'y avoir des histoires ces derniers mois. La réalité des chiffres et le manque de moyens alloués aux associations contredisent les grands discours du gouvernement. Pour les féministes qui appellent à manifester samedi, voilà l'actualité en fait qui provoque le dossier, l'heure est à l'action. Mercredi 1er janvier, il est minuit passé lorsqu'un homme appelle les secours. J'ai fait une bêtise, dit-il. Le corps roué de coups d'Isabelle, 51 ans, aide à domicile, est découvert par les pompiers au domicile familial à Aumont, dans le Nord. Son compagnon vient de la tuer. Isabelle est la première victime de féminicide en 2025. On était le 1er janvier. 3 heures après le début de la nouvelle année. Lundi 17 novembre, une femme de 72 ans est retrouvée mortellement blessée à l'arme blanche chez elle à Hirson, dans l'Aisne. C'est son fils, interpellé par la police le lendemain, qui l'a poignardé. Les matricides sont des féminicides, rappelle le hashtag Nous Toutes, qui décompte 144 féminicides depuis le début de l'année, 145 même. Une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu ce jeudi 20 novembre à Besançon, dans le Doubs. Quelqu'un m'en parlait dans le chat tout à l'heure, donc oui. Et son ex-conjoint a été placé en garde à vue pour assassinat. En France, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou tentatives de féminicide conjugal. Je relis cette phrase. En France, chaque jour, plus de 3 femmes, chaque jour, sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide conjugal. Ce sont les chiffres de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Toutes les 7 heures en France, il y a une femme que son conjoint ou ex-conjoint tue, tente de tuer, conduit à se suicider ou à tenter de se suicider. Précise la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes qui dépend de la MIPROF. Au total, cela a concerné 1283 femmes l'an dernier contre 1196 en 2023. À travers ces chiffres, toujours la même réalité glaçante, des femmes continuent de mourir en raison de leur genre. Le 8 septembre, le meurtre d'Inès Messelem par son ex-compagnon à Poitiers, Vienne, le mot « ex » revient quand même beaucoup, hein, dans cet article. Ex-compagnon. À Poitiers, crée un émoi national. Travailleuse sociale, la jeune femme de 25 ans, était très impliquée dans le tissu associatif. Reste CDBA, lis pas les commentaires. Aidant notamment les réfugiés dans leur démarche administrative. C'est comme ça qu'elle rencontre Habib. Mais la belle histoire se transforme vite en cauchemar. Violence verbale, sexuelle, physique. En avril 2025, elle le quitte, se réfugie chez sa mère. L'homme la suit dans la rue, la menace de mort. Inès a peur. Elle décide de porter plainte. En un mois et demi, elle ira 6 fois au commissariat. Alors qu'il la traque une énième fois en centre-ville, elle utilise son téléphone grave danger. C'est un des outils qui a été mis en place par la justice française pour tenter de lutter contre les violences faites aux femmes, qui commence à se développer, pas assez, hélas. Elle utilise son téléphone grave danger, le TGD, dispositif qui permet d'alerter rapidement la police. L'homme est interpellé, mais plutôt que d'être placé en garde à vue, il est aussitôt relâché. 2 jours plus tard, il tue Inès de plusieurs coups de couteau, alors qu'elle était venue récupérer des affaires chez elle. La famille d'Inès a porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre le commissariat de Poitiers. Elle réclame des réponses à cette question qui tourne en boucle. Pourquoi la police a-t-elle relâché cet homme ? Inès s'est retrouvée isolée, seule face au danger, s'inquiète la présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Elle avait pourtant fait tout ce qu'il fallait en déposant plainte, en tentant de se protéger. De plus en plus, les femmes osent, mais bien souvent d'ailleurs elles n'osent pas, elles ont peur, porter plainte. Souvent, vous savez que les violences faites aux femmes sont sous-estimées dans notre pays, sous-déclarées, parce que beaucoup de femmes ont peur. Peur que la plainte, que le signalement, que la main courante, en fait, provoque de la violence. Dans un cadre domestique, familial, où les deux personnes, celui qui est l'auteur des violences et la victime de ces violences, sont sous le même toit. Mais, de plus en plus, les femmes, manifestement, arrivent à le faire. Pas assez, mais arrivent à le faire. Et elles le font pour se protéger. En espérant que la société va entendre ce message de volonté de protection, d'alerte, voilà, et que la police, et que la gendarmerie, et que la justice vont les croire, les protéger. Hein ? Et puis quand la société ne les entend pas, quand la société ne les croit pas, ne veut pas les entendre, les écouter, quand la police et la gendarmerie ne le font pas, et que la justice ne le fait pas non plus, évidemment, la victime est 2 fois victime, quoi. Mi-octobre, alors que venait de se clôturer le procès de Cédric Jubillard, condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance pour le meurtre de sa compagne, Delphine, cette même fédération tirait la sonnette d'alarme. En seulement 10 jours, 8 meurtres de femmes avaient été commis. Les outils existent pourtant, le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger. Alors ne disons pas que rien n'est fait contre les violences faites aux femmes, il y a des choses, mais insuffisantes, il y a des moyens insuffisants. Mais par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des choses. Voilà. Bracelet anti-rapprochement, téléphone grave danger, éloignement, placement en détention provisoire, contrôle. Mais finalement, on fait encore et toujours porter sur les épaules de la victime la responsabilité de sa survie. Cette phrase est très forte. Hein. On va lui dire, on vous donne un téléphone grave danger, faites-en bon usage. Souffle Sylvaine Grévin, la présidente de la fédération, là, qui dénonce un manque de moyens criant. Voilà, le manque de moyens. Les services pénitentiaires, d'insertion, de probation, chargés des contrôles, ont chacun une soixantaine de personnes à suivre. Dans ces conditions, comment peut-il ne pas y avoir de trous dans la raquette ? La responsable d'association, sœur de Bénédicte, tuée en 2017 par son ex-compagnon, évoque la lenteur judiciaire, le défaut de coordination entre justice et police, les plaintes classées sans suite, j'en parlais tout à l'heure. 86% des plaintes dans les affaires de violences sexuelles sont classées sans suite. Il y a des femmes qui réussissent à trouver le courage, malgré le danger, de porter plainte. 86% des plaintes dans les affaires de violences sexuelles en France sont classées sans suite. 90% pour les viols. Pourquoi ? Parce que je suis pas spécialiste de justice, mais parce qu'il y a, il y a souvent un manque de preuves. Hein. Ces violences, ces agressions se font dans le huis clos de la maison. Hein, et donc c'est parole contre parole. Hein, il n'y a pas forcément d'image, de photos, d'enregistrement pour prouver la violence. Et donc c'est parole contre parole. Et ça donne 86% des affaires de violences sexuelles classées sans suite, 90% pour les viols. Comment voulez-vous encourager les femmes à trouver le courage de prendre le risque de porter plainte quand elles savent qu'il y a 86% que la plainte soit classée ou 90% dans une affaire de viol ? Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je pense qu'il faut, il faut la soulever quand même, cette question-là. Voilà. Et les associations de dénoncer un manque notoire de volonté politique. Le mot féminicide, aujourd'hui largement reconnu dans la société, ne l'est pas toujours dans le code de procédure pénale. Lorsque survient la mort tragique de Shaïnès Daoud, brûlée vive en public par son ex-mari. Vous voyez, pardon, mais ce mot ex qui revient beaucoup. On voit, j'ai l'impression que le féminicide, il est quand même souvent commis par un homme qui n'a pas accepté d'être quitté, quoi. Ce mot ex revient beaucoup quand même. Hein. Lorsque survient la mort tragique de Shaïnès Daoud, brûlée vive en public par son ex-mari en 2021, Sylvaine Grévin en est persuadée, tout va changer. 2021, les politiques publiques vont s'accélérer forcément, les mécaniques de lutte contre les violences se débloquent. Et puis non, rien soupire-t-elle ? Ce crime abject devient pourtant le symbole d'une France meurtrie par les féminicides. Le 4 mai 2021, vers 18h, la mère de famille de 31 ans quitte son pavillon à Mérignac, près de Bordeaux, pour récupérer ses enfants à l'école. À peine franchi le pas de la porte, son ex-mari, avec qui elle est en instance de divorce, lui tire une balle dans chaque jambe. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire ? Elle l'implore au sol devant les yeux médusés d'un voisin. Il l'asperge d'un liquide inflammable, met le feu à son corps. Shaïnès meurt brûlée vive. Une enquête de l'inspection générale des services va pointer plusieurs fautes. Le criminel comptait 7 condamnations dans son casier judiciaire. Il avait déjà été condamné pour violence sur son ex-compagne, qui avait eu le courage de porter plainte à 3 reprises. La 3e fois, la plainte est mal enregistrée par un policier qui venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale. Quand une femme porte plainte, que l'homme est prévenu sans mesure pour l'éloigner, tous les feux sont au vert pour le féminicide. La femme qui porte plainte pour violence, en fait, il faut absolument la protéger. Parce que c'est le moment où elle est la plus exposée, la plus fragile. Parce que vous avez compris évidemment que cette plainte, elle va provoquer la colère de l'agresseur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, une victime de violence au sein du couple, il faut commencer par la croire. Il faut commencer par la soutenir. Et il faut commencer par lui dire « je te crois et on va te protéger ». Parce que c'est ce que les chiffres nous disent. C'est parce que c'est ce que les statistiques nous disent. C'est parce que les faits et l'actualité nous dit, en fait. Après, il faut laisser faire le travail de la justice, car nous ne sommes pas juges. Mais il faut commencer par ça, parce que c'est cette parole qui va protéger, cette parole qui est de « je te crois ». Je te soutiens. Et nous, collectivement, société, nous allons te protéger. Donc je répète cette phrase d'une avocate. Quand une femme porte plainte, quand une femme porte plainte, que l'homme est prévenu sans mesure pour l'éloigner, tous les feux sont verts pour le féminicide. Or, rien n'est fait pour protéger immédiatement une femme qui sort du commissariat. C'est ça qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que la femme parfois arrive à trouver le courage de porter plainte malgré les dangers que ça implique pour elle, pour se protéger, et ce faisant, en portant plainte, elle se met en danger. Donc, quand on voit les chiffres de non-lieu, des affaires classées après des plaintes pour violence ou viol, et quand on imagine maintenant le nombre de femmes qui ne portent pas plainte pour ces raisons, en se disant « de toute façon, au final, personne ne va m'écouter, personne ne va m'entendre, personne ne va me croire », on commence à avoir une petite idée de ce que cela représente dans notre société. Il n'y a pourtant, alors on dit manque de volonté politique, manque de moyens. Il n'y a pourtant rien à inventer, dit cette avocate, qui est présidente d'une association qui s'appelle Lawyers for Women, qui a perdu sa sœur du fait d'un féminicide en 2017. Il suffit de reprendre ce que les voisins font de bien. En Espagne, il y a eu l'Espagne, c'est un pays qui a été touché par beaucoup de violences intrafamiliales. Et en Espagne, ils ont réussi à faire baisser ces chiffres. On dirait, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais. Il suffit de reprendre ce que les voisins font de bien, comme en Espagne, où le dispositif Viogen se met en place dès l'instant où une femme porte plainte. Donc en Espagne, par exemple, il y a des choses qui ont été mises en place, dont on commence à s'inspirer en France, mais c'est que le début. Et il y a des outils, il y a des moyens pour que la société arrive à protéger davantage les femmes. Mais ça doit commencer déjà par un changement d'esprit de nous tous sur le sujet. Une protection impliquant tous les acteurs concernés, police, juges, procureurs, services sociaux, médecins, se déclenche en temps réel dès la plainte déposée. Comment ça marche concrètement ? En 16 ans, l'Espagne a réussi à faire diminuer de plus d'un tiers le nombre de féminicides conjugaux. Donc c'est pas miraculeux, c'est pas 100%, hein, mais une diminution d'un tiers. La recette miraculeuse n'existe pas, mais ils y ont mis les moyens. Voilà. Qui précise par exemple... Sandrine Bouchet, je ne sais plus qui c'est, mais une responsable associative, je pense, qui précise qu'en Espagne, contrairement à la France, le bracelet anti-rapprochement, il est obligatoire. Il n'est pas facultatif, quoi. Les deux associations constatent, de bonnes nouvelles existent malgré tout. D'abord, l'accueil des femmes dans les commissariats s'est amélioré. Oui. Hein. C'est une chose de dire qu'on a 1000 milliards d'efforts à faire, et c'est une chose de dire qu'il n'y a pas eu des efforts déjà faits. Donc oui, il y a eu des formations auprès des policiers et des gendarmes pour commencer à améliorer l'accueil dans le commissariat. Moi, je me promenais dans mon quartier pas plus tard que le week-end dernier pour emmener les enfants au sport. Je passe devant un commissariat, le commissariat du quartier. Sur la porte, j'étais intrigué par deux autocollants avec disaient bah voilà, si vous venez pour des violences, je ne sais plus comment c'est marqué, intrafamiliales, je ne sais plus comment quelle est l'expression, bah voilà, vous avez ce guichet. C'est-à-dire dès la porte du commissariat. Il y avait déjà un truc qui disait, attendez, si vous êtes concerné par une violence intrafamiliale, bah voilà, on vous attend. Conjugale peut-être, je ne sais plus. Donc ça, le truc, vous voyez que ce soit sur la porte d'entrée. Ça envoie un message qui est en mode, oui, on sait que ça existe et on est prêt à vous accueillir. Alors, je ne sais pas comment ça va être après, mais ouais, c'est d'entrée. Et je me dis qu'une femme qui passe devant ce sticker là, elle se dit peut-être le jour où ça arrive, peut-être qu'elle va repenser à ce message. Hein. Donc il y a des choses, des petites choses. Merci Matmé, merci Bino Ledino, merci Lexis, merci Squeeze Quicks. Tiens, j'ai plein de messages que je lis pas dans le chat, mais qui sont très intéressants. Amosir, je suis secouriste, j'ai souvent pris en charge des victimes de violences de VSS, de violences, c'est comment ? VSS, c'est violence. Ah, c'est quoi VSS? Violence sexuelle, bien sûr, mais le deuxième S. Violence. C'est ça, hein, c'est sexiste. Moi, je voulais être sûr. Violence sexiste et sexuelle. Pardon, parfois j'ai un doute, je préfère interroger. Je suis secouru. J'ai souvent pris en charge des victimes de VSS, et même si on doit leur rappeler qu'ils, elles, ont le droit de porter plainte, la réalité, c'est que les victimes le font extrêmement rarement, car elles savent qu'elles ne seront pas prises au sérieux, et ont peur d'être rendues responsables de leur situation de victime, et c'est la même chose pour les violences conjugales. Donc je vais là sur la fin de l'article. Donc, l'accueil des femmes dans les commissariats s'est amélioré, ça je veux bien le croire, même s'il demeure des inégalités territoriales, ça doit dépendre des commissariats. Les peines requises sont souvent plus sévères qu'elles n'ont été. En mars, Mounir Bouta, le meurtrier de Chahinez Daoud, la dame là, qui a été brûlée vive, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Le traitement des féminicides dans les médias s'est nettement amélioré, mais quelques bémols toutefois. Pour les féminicides concernant les femmes de plus de 60 ans en constante augmentation, les médias vont temporiser, réduire la part de responsabilité de l'époux. Alors, elle avait Alzheimer, il n'en pouvait plus quand l'époux meurtrier est vieux. J'ai déjà vu passer des articles comme ça. Un peu bizarre, quoi. Beaucoup repose sur les seules épaules des associations, déjà exsangues, et celles qui accompagnent les familles de victimes ne bénéficient d'aucune subvention. Pourtant, la FNVF a sorti en 2021 un guide destiné aux familles touchées, une première. Ouais, et donc l'humanité parle de ces deux femmes, responsables d'associations, un boulot à temps plein dont les deux femmes se seraient certainement passées si leurs sœurs, parce qu'elles ont été touchées dans leur famille, comme tant d'autres, n'avaient été victimes d'hommes qui, ouvrez les guillemets, veulent posséder leurs femmes quand ils possèdent leur bagnole. Soupire Sandrine Boucher. Merci Maestro, merci Mathmet, et je vous lis. Cette semaine, un élève de mon compagnon, prof de français, demandait: Mais c'est quoi, monsieur, un crime passionnel? Ah oui, je l'entends, je le lis dans les médias parfois, ça, crime passionnel. Réponse d'une autre élève: Un crime passionnel, c'est un féminicide. Romantisé. C'est donc la meilleure réponse qui soit. Merci Kratovic, comment vas-tu? Je vous lis. Hein. C'est dur d'aller porter plainte car c'est assumé, me dit Mascotto, également un échec de vie sentimentale et tout le monde te pose des questions de comment ça se fait, etc. Salut Gigi. Alors, quand on disait que ça commençait à s'améliorer doucement, qu'il y avait des petites choses, Amy Max me dit, est-ce qu'il y a matière un tout petit peu à espoir? Une connaissance a déposé main courante pour attouchement. Elle a été rappelée 3 fois par la police pour faire un suivi, pour savoir si ça allait. Force framboise pour les messages de tes messages que je lis. Alors écoutez, je lis le chat des deux côtés, Twitch et TikTok, et je suis, l'expression est maladroite, mais agréablement surpris, parce que je vois qu'il n'y a pas tellement de débat sur le sujet, je vois qu'il y a des connaissances, et je ne vois pas, je ne vois pas, et j'en suis un peu surpris, comment dire, je ne vois pas les très nombreux messages que je reçois quotidiennement depuis quelques semaines sur sur le sujet avec des arguments qu'on retrouve beaucoup dans la communauté dite des incels. Voilà. Donc je suis agréablement surpris de ce que je lis là. Ah oui, parce qu'il y a un peu de modération, bien sûr, mais pas seulement. Je crois aussi que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance énorme, gigantesque, amplifiée aussi par les algorithmes qui mettent en avant des messages qui vont faire réagir et qui sont pourtant pas des messages forcément nombreux et majoritaires. Et en fait, ces réseaux sociaux nous donnent une vision déformée sans doute du sentiment général. Bon, les amis, bon, je suis content de vous en avoir parlé. Et hélas, on sera amené à en reparler puisque ce combat va sans doute nous prendre quelque temps. Je vous emmène, on est sur du léger ce matin, je vous emmène en Ukraine maintenant. Ok? 2h21. Hop, hop, hop. Je vous lis en même temps. J'essaie de faire les deux. J'ai toujours peur de rater des commentaires. Zelensky fragilisé par Trump. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok. Ok, ça c'est ok. Et je vous mets la petite flèche sur aussi le sommaire sur TikTok. Féminicide en France, on en a parlé. Et maintenant, Zelensky fragilisé par Trump. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a plein d'articles ce matin sur le plan de paix de Trump pour l'Ukraine. Alors là, quand tu lis ça, tu vois, ah, cool, il y a un plan de paix pour l'Ukraine de Trump. Let's go, quoi. Peut-être la fin de la guerre, peut-être qu'enfin, les Ukrainiens vont pouvoir être tranquilles, quoi. Ben, en fait, pas trop. Je vous ai choisi le dossier des Échos, j'aurais pu vous choisir plein d'autres articles, il y en avait plein ce matin, quoi. Zelensky, de nouveau fragilisé par Trump, fragilisé par ce plan de paix, nous disent les Échos en leur une. Volodymyr Zelensky se retrouve de nouveau sur la défensive face à Trump, dit le journal. Le nouveau plan de paix en 28 points, que l'émissaire de la Maison-Blanche Steve Witkoff a concocté avec le Kremlin. Déjà, cette phrase, elle est étrange. C'est un plan de paix pour l'Ukraine préparé avec le Kremlin, avec la Russie. Ok. Vient de fuiter. Voilà. Et il reviendrait, selon les Échos, à une capitulation de l'Ukraine. Il ne peut être accepté par Kiev et est jugé inapplicable par les experts, mais il tombe mal pour le président ukrainien, on en a déjà parlé ici, affaibli par des scandales de corruption, il y a certains de ses proches qui s'en sont mis plein les fouilles. Voilà. L'effet des sanctions décidées par Donald Trump sur le pétrole russe qui entre en vigueur aujourd'hui reste en outre pour le moment très incertain. Allons lire cet article, page 5, dans les Échos. Lisons. Trump tente un plan de paix pour l'Ukraine jugé inapplicable. Pourquoi? Le plan que l'émissaire de la Maison-Blanche a concocté avec le Kremlin, je n'arrive pas à m'habituer à cette phrase, constituerait une capitulation de l'Ukraine et n'a aucune chance d'être accepté. Est-ce que c'est un coup fourré? Est-ce que c'est un coup de pied dans la fourmilière? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, se demande le journal. C'est en tout cas une véritable capitulation de l'Ukraine que la Maison-Blanche a concoctée via son émissaire spécial auprès du Kremlin, Steve Witkoff, et qui a fuité dans la presse aux États-Unis mercredi soir. Plan dont Kiev a accusé réception le lendemain jeudi. Pourtant, l'entourage de Trump voulait croire jeudi matin que ce plan serait accepté, bon gré mal gré, par l'Ukraine. Il misait pour cela sur une rencontre jeudi soir entre Zelensky et le secrétaire américain à l'armée de terre. Sauf que cela n'arrivera certainement pas. Selon le nombre d'analystes, tant ce point en 28 points s'apparente, ce plan pardon, en 28 points s'apparente à une reddition en rase campagne de Kiev. Il prévoit en effet, non seulement, que prévoit ce plan, l'abandon de la partie du Donbass que l'armée ukrainienne contrôle encore, donc des forteresses verrouillant l'accès à Kiev et Odessa, mais aussi la division par deux de l'armée ukrainienne à 400 000 hommes, l'interdiction de toute fourniture d'armes étrangères, un changement de régime et la reconnaissance du russe comme langue officielle. Ça, c'est le plan de paix que l'Amérique propose aujourd'hui à l'Ukraine. Waouh ! Ce plan n'a aucune chance d'être appliqué, estime un chercheur, tant il est inacceptable pour l'Ukraine, les Européens et même l'appareil sécuritaire américain sans aucune concession du Kremlin. Voilà. Quelqu'un dit « et 100 balles et 1 mars », c'est peut-être le 28e point, j'ai pas lu tout le truc. Cela ressemble à une initiative personnelle de Steve Witkoff avec un vague vœu faire feu vert de Trump. Mais sans consensus de l'ensemble de l'administration Trump. D'ailleurs, le secrétaire d'État, Marco Rubio, a pris ses distances avec le plan. Voilà. Et les diplomates américains s'avèrent très réticents à le commenter. Bon. Ouais, une initiative, quoi. Le politologue ukrainien, Volodymyr Fetsenko, estime aussi que ce plan serait voué à l'échec car le Kremlin n'est pas intéressé par la fin de la guerre pour le moment. Même le Kremlin ne serait pas intéressé de toute façon. Voilà. Et un autre chercheur, Charles Lichfield, souligne que ce plan n'a aucun sens, notamment parce qu'il entend remettre en selle l'économie russe sans tenir compte de l'avis des Européens, alors que leur participation est incontournable, vu leur poids, jadis, dans le commerce extérieur russe. Bref, pour résumer, il n'y a rien qui va. Le plan, ajoute-t-il, probablement n'a même pas été vu par le département d'État, qui sinon n'aurait pas laissé passer l'exigence russe d'une interdiction de vol en Ukraine de tout avion occidental, y compris sous statut diplomatique. Bon. Alors, moi, je suis en train de me demander, mais pourquoi on en parle de ce plan, puisque manifestement, même les Américains ne sont pas d'accord dessus, quoi. Dès lors, on peut se demander pourquoi la Maison-Blanche s'est laissée embringuer au risque d'être discréditée, dont dans la mise au point d'un plan dont on n'entendra bientôt plus parler. Et là, le chercheur Charles Lichfield nous dit « Trump est coutumier de la stratégie du coup de pied dans la fourmilière. On sème le chaos et ensuite on voit ce qu'on peut glaner, quitte à reculer si nécessaire ou désavouer l'initiative. » Bon, c'est plus un test. Trump essaie de capitaliser sur l'affaiblissement politique de Volodymyr Zelensky en raison des scandales de corruption, dont on a parlé aussi, qui touchent ses proches, hein, pour arracher au président ukrainien n'importe quelle concession et se targuer d'avoir arrêté les combats. Un Trump, le fameux candidat au prix Nobel de la paix. Un pari voué à l'échec selon le politologue, si Zelensky acceptait les exigences américaines, cela signifierait qu'une catastrophe politique définitive pour lui, alors qu'il défend activement les intérêts de l'Ukraine, cela contribuerait à sa survie politique. Bref, sauf coup de théâtre, l'opération plan de paix de Witkoff sera soldée par un échec cuisant. Bon. Eh ben, ça a été vite traité. Ok. Non, je voyais plein de papiers sur ce plan de paix. Et je trouve que l'article des Échos est super clair là-dessus. Ok, bon, on va pouvoir passer à autre chose. Pendant ce temps-là, la guerre se poursuit. Je vous lis. Un plan de paix ChatGPT, me dit Calistera. C'est vrai que ça y ressemble un peu, ouais. Ou comment s'appelle l'IA de Twitter de X, là, c'est Grok? C'est plutôt ça, non? Hein, Grok? J'ai lu des papiers, je vous les ai pas mis de côté ces derniers jours, sur comment un internaute, si j'ai bien compris, a réussi à faire tenir à Grok des propos totalement révisionnistes sur la Shoah, sur les chambres à gaz. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Vous tapez sur Google Grok Shoah ou Grok chambre à gaz. Vlalia, quoi. Vlalia révisionniste, quoi. Je veux même. Enfin, vous irez lire, là, je vais pas avoir la force ce matin, quoi. Ouais, avec Grogpedia, ouais. Dinguerie. Dinguerie. Bon, là, moi, je vais pas avoir le courage ce matin, mais vous irez voir, c'est une folie, quoi. Méfiez-vous, hein, parfois, des IA, quoi. Ouais. Il y a aussi le Wikipédia, le Grokipédia, je crois, hein. Version Elon Musk, me dit Vacher, qui est totalement dans les fausses infos. Un jour, je vous conseille, je vous lirai un petit article sur ce, je sais pas si on dit c'est Grokipédia ou Grokpedia, c'est un, qui est un, qui est un, en fait un espèce de projet parallèle à Wikipédia, qui d'après ce que j'ai compris, Grokipédia, ouais, en fait va se nourrir de Wikipédia, mais va réécrire les articles dans un certain sens. Un sens un peu MAGA, quoi. Un sens un peu Make America Great Again. Un sens un peu révisionniste sur plein de choses, quoi. En utilisant les articles de Wiki, mais en les réécrivant. Waouh! La lecture de l'article Samuel Etienne de Grokipédia par Samuel Etienne, mon rêve. Bah déjà, l'article Wikipédia Samuel Etienne de base, il est déjà bien compliqué, hein. Oui, au sens Musk, pardon, oui, pour faire simple. Ouais. Ça existe, hein, c'est un vrai truc, hein. Au début, je pensais que Grokipédia était une vanne. Moi aussi, mais en fait, non. Ils font même plus mine, hein. Ils se cachent même plus. Ouais. Incroyable. Bon, je suis en alerte là-dessus. J'essaierai de vous trouver un sujet. Il reste encore pas mal de trucs. Il reste quoi? Le camp. Il reste trois trucs. Est-ce que vous m'autorisez à faire un petit pipi? Ouais, un mini pipi, 30 secondes, je vous mets pas de pub, je vous mets pas de pause, hein, pas de pub, rien, juste vous, dans le chat, en train de discuter entre vous, tranquillement, de l'amour, de l'échange, de l'actualité, pas de pub, rien, je vous mets rien, pas, vous discutez entre vous. Je coupe le micro pour les bruits de pipi, j'en ai pour 30 secondes, les toilettes sont à 2 mètres, ok? Je vous laisse discuter, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas, comme le dit mon sweet, Make journalism great again. Et je me suis lavé les mains. Et je me suis lavé les mains. Parce que je suis très rapide. Vous êtes toujours là? Sans les mains. Ah bah oui, sans les mains, parce que du coup je me lave les mains en même temps. Pour gagner du temps. Ouais. En fait, le secret, c'est ça. C'est en fait, je me lave les mains en même temps que. Voilà, vous l'avez compris, quoi. Tu gagnes un temps fou, tu gagnes un temps fou. Entre deux rounds de valo, je peux littéralement aller faire pipi, quoi. Mais quoi? Mais si je me suis lavé. Je vous promets, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que je me suis lavé les mains. Ah, mais c'est tout petit ici, hein. Ne croyez pas que. C'est pas le. J'ai eu la chance de recevoir Mastu cette semaine dans MVP. On parlait du lot, du local of all times, qu'il avait eu avec notamment l'ami Joyka. Bon, c'est pas le lot ici, hein. Ça fait, c'est tout petit, hein. Je parle du local, hein. Je parle du local, hein. Je parle du local. Alors, reparlons de Trump ce matin. Le camp Trump qui est divisé. Alors, on est très triste. 2h34. Là, c'est pas un truc sur Trump, c'est un truc sur son camp. Ils ont du, ils sont, ils sont, ils sont, ils ont du, ils se divisent. Ils sont pas d'accord. Sur quoi, je sais pas, on va voir. Hop. La taxe foncière, non, j'en ai pas parlé, Popsino, parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer sur cette augmentation de la taxe foncière. Et j'ai lu un article ce matin selon lequel finalement cette augmentation ne se ferait pas, qu'ils ont déjà reculé. Il y a des actualités sur lesquelles je me presse, il y a des actualités sur lesquelles je ne me presse pas. Parce que tout ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment peut beaucoup varier en fonction de ce qui va se passer ensuite au Sénat, dans la commission mixte paritaire, loi spéciale, ordonnance, vote ou pas d'une loi. Donc je suis très prudent avec ce qui se fait à l'Assemblée actuellement parce que tout peut être défait littéralement ou changé dans les heures et les jours qui viennent, quoi. Et sur la taxe foncière, finalement, il y avait des rumeurs de hausse de la taxe foncière et finalement, ils sont peut-être déjà revenus en arrière. Et elle est où ma flèche ? Ah, elle est là. Voilà. Donc, si elle augmente, je vous en parlerai. Les proprios. La taxe foncière, c'est quand t'es propriétaire. Let's go ! Mais faites-moi confiance, je suis le dossier. Le camp Trump divisé et rongé par l'extrémisme. Bon, c'est quand même la une du Monde, hein. Donc le Monde nous met le sujet en une, quoi. Affaire Epstein, inflation, Israël, Venezuela, autour du président des États-Unis, le mouvement MAGA, Make America Great Again. Ici, on est plutôt Make Journalism Great Again, merci le Gorafi. Se déchire sur de nombreux sujets. Plusieurs figures de cet écosystème MAGA reprochent quoi à Trump ? De se disperser dans les affaires du monde. Voilà. À rebours du concept d'America First. Occupe-toi des States, bordel. Occupe-toi du pouvoir d'achat, de l'inflation, des emplois. Arrête. Arrête de vouloir devenir prix Nobel de la paix, quoi. C'est un peu ce truc-là, quoi. Non, pas Magla. Magla, on l'aime. Ne confondez pas. Merci, Doudou. Le monde MAGA, Make America Great Again, se dévore lui-même. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi. L'euphorie du retour au pouvoir de Trump a vécu, les dissensions internes à la fois idéologiques et personnelles mettent en danger la coalition qui a permis son succès. Le président américain feint l'indifférence. MAGA, c'était mon idée, a-t-il rappelé récemment. Je sais mieux que quiconque ce que veut MAGA, et MAGA veut que notre pays prospère. Je pense que Trump sait mieux que quiconque tout. Si la pertinence du mouvement ne peut guère être contestée, la bataille pour le futur a commencé. Elle implique de moins en moins celui qui ne pourra pas prétendre un troisième mandat en 2028, selon la Constitution, et qui voit son autorité se craqueler. Normalement, comme Macron chez nous, Macron ne peut pas se présenter à un troisième mandat, et consécutif en tout cas, et Trump ne peut pas se présenter à un nouveau mandat. Je crois qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats, consécutifs ou non, j'en suis même sûr, dans la Constitution américaine. Donc normalement, sauf changement de la Constitution, Trump ne peut pas être candidat à lui-même. Et donc ça l'affaiblit politiquement. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher de la fin de son deuxième mandat, je parle de Trump, plus le camp républicain va lâcher, va s'intéresser de moins en moins à lui, parce qu'ils vont être sur la suite. Voilà. Donc ça l'affaiblit un petit peu politiquement. Cette bataille ne concerne pas les membres du culte trumpiste qui répètent ses propos comme une liturgie, on en a ici en France. Elle n'apparaît pas au sein des circuits politiques traditionnels au Congrès. Elle se passe dans l'écosystème spécifique essentiellement en ligne, Internet, baby, de ce populisme nationaliste. Est-ce qu'il pourrait être vice-président ? Oui. Par contre, il peut être Premier ministre ? Non, ce poste n'existe pas aux États-Unis. Mais il peut être vice-président, oui. Je pense qu'il peut être vice-président, ouais. Je pense que oui. Il faut que je me penche sur le sujet. Je pense que oui. Je suis pas sûr. Arnaud dit il peut pas. Ah, peut-être, je sais pas. Quelqu'un a bossé là-dessus ? Il peut pas être vice-président ? La Constitution le dit ou pas ? Hmm ? Tiens, il faut qu'on bosse sur ce sujet. Il peut, mais il ne pourrait pas être président si le président meurt. Ouais. Ouais, ok. Ok. On va suivre ce truc. De toute façon, plus on va s'approcher de la fin du mandat de Trump et plus on va être confronté à ce genre de débat. Est-ce qu'il peut changer la Constitution pour faire un troisième mandat ? Est-ce qu'il peut élu vice-président ? Est-ce qu'il peut garder une influence sur le nouveau président ? À supposer qu'il soit républicain, bien sûr. La proximité de Trump avec les milliardaires de la tech, sa défense des visas pour les travailleurs étrangers à haute compétence, sa tentation d'une intervention militaire au Venezuela, l'aide promise à l'Argentine, ses gestes réguliers à l'égard d'Israël, son approche en courant alternatif de la liberté d'expression, voilà autant de sujets de crispation interne au camp MAGA. Réalisateur et animateur, suivi par 1,4 million d'abonnés sur X, Mike Cernovich, écrivait le 14 novembre, durant une visite récente à Washington, tout le monde évoquait à quel point la corruption était ouverte. C'est un haut niveau digne des livres d'histoire. Donc lui, c'est un soutien de Trump, a priori. Les attaques viennent parfois des plus fidèles, qui sont désabusés. Le cas Marjorie Taylor Greene est emblématique. Si le mouvement MAGA était une famille, elle en serait la fille aînée. Longtemps ardente avocate de Trump, cette représentante de la Géorgie à la Chambre a choisi de recentrer son image, de rompre avec lui. Ça, je savais pas ça. Elle estime que le président s'est trop dispersé dans les affaires du monde, délaissant la vie quotidienne des Américains. Mais le cœur de leur divorce est le scandale Jeffrey Epstein, dont on a déjà parlé ici, du nom de ce financier et prédateur sexuel. Mort en prison en 2019, Marjorie Taylor Greene a été la seule élue républicaine de la Chambre, avec son collègue du Kentucky, Thomas Massie, à se dresser dès le début de l'affaire aux côtés des victimes, alors mineures, pour réclamer la publication du dossier d'enquête. Merci Lazarette. Merci Lazarette. Ce serait intéressant. Mardi, elle se tenait à nouveau aux côtés des victimes au Capitole. Après des jours d'insultes et de menaces de la part des Trumpistes, elle estimait, donc cette républicaine, cette ancienne tête de chef de file du mouvement MAGA, elle estimait que les Américains ne toléreront plus de conneries dans le dossier Epstein, merci Sébafil, qui a déchiré le monde MAGA. Je me suis battu pour Trump, pour ses politiques et pour America First. Il m'a qualifié de traîtresse pour m'être tenue avec ses femmes. Laissez-moi vous dire ce qu'un traître. Un traître, c'est un Américain qui sert des pays étrangers et lui-même. Un patriote est un Américain qui sert les États-Unis. Ambiance ! Ambiance ! Suggérer que Trump est un traître. Personne n'avait osé à droite. Le milliardaire semble déborder sur son terrain privilégié, celui de la transgression. En 10 ans, il a rendu central ce qui était extrémiste, consensuel, ce qui était conspirationniste. C'est lui, en novembre 2022, qui a invité à dîner à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride, le néo-nazi Nick Fuentes, en compagnie du rappeur Kanye West. Je connais pas bien Nick Fuentes, mais c'est marrant, ça fait le patron. Alors, on ne doit pas juger un livre à sa couverture, mais le patronyme Nick Fuentes, ça fait plus penser à un chanteur de rap latino qu'un néo-nazi. Comme quoi ? Comme quoi ? Hein ? Jamais juger les apparences, quoi. Nick Fuentes ! T'as envie d'aller faire tu vois, une compète de danse, quoi. Moi, je connais pas. Nick Fuentes ! Vamos ! Tu vois ? Ça. Et en fait, non. Le mec, c'est un néo-nazi. Nous dit Le Monde. Comme quoi. Hein. Mais méfions-nous. Désolé. Des apparences. Comment ne pas repenser à ce moment symbolique en constatant la popularité croissante de ce même Fuentes, tenant les Juifs pour responsables de toutes les guerres dans le monde. Ah oui, en fait. C'est bien un néo-nazi. C'est pas un latino. Voilà. Chanteur. Et réclamer la peine de mort contre eux. Le gars a littéralement déclaré que les Juifs étaient responsables de toutes les guerres dans le monde et a littéralement demandé la peine de mort contre les Juifs. Monsieur Fuentes, là ? Ah ouais. Waouh. Parfois, on ne sait pas quoi dire, en fait. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Parfois, on ne sait pas quoi dire. MAGA est mort. Nick Fuentes, donc le désormais fameux, a posté ce message lapidaire sur X le 12 novembre dernier, se repaissant de sa provocation déjà formulée en juillet. Elle illustre son attractivité chez les Groypers, surnom de ses partisans. À de nombreuses reprises, ces dernières années, ils ont tenté de perturber sur les campus les réunions de Turning Point USA, l'organisation de Charlie Kirk assassiné le 10 septembre. Ah, en fait, le mec était à droite de Charlie Kirk. Ok. Les Groypers. Ah oui, les deux mouvements se disputent effectivement le même électorat, celui des jeunes conservateurs peu politisés. Les Groypers forment une mouvance non seulement anti-élitiste, mais antidémocratique, antisémite, raciste, homophobe, se nourrissant volontiers aux sources conspirationnistes. On commence à en avoir des petits en France de ces gens-là, on les voit sur les réseaux. Moi, je les lis beaucoup, moi. Ils m'envoient beaucoup de messages. Faudrait que je vous fasse un livre un jour avec ça. Toutes ces pulsions se diffusent en ligne dans une surenchère de plaisanteries virilistes, de mèmes, de montages. Ouais, je vois bien, je vois bien. Ils promeuvent une colère se voulant scandaleuse. Oui, il y a beaucoup de colère souvent dans les messages que je reçois. Une colère se voulant scandaleuse et performative qui célèbre aussi la possession du corps des femmes. Oui, souvent, c'est un peu le même camp aussi, oui, c'est vrai. C'est celle que Sindra Miller-Idris, qui est directrice de laboratoire sur la polarisation de l'extrémisme à Washington. La formule « ton corps, mon choix » est devenue virale comme ça. « Ton corps, mon choix » C'est quoi ce truc ?« Ton corps, mon choix » C'est quoi ce truc? C'est leur formule? On voit des mouvements profonds entre les. Des regroupements profonds entre les suprémacistes blancs et la misogynie. Oui, ça, je sais ça. Tout leur fantasme d'un état ethnique blanc repose sur la capacité de femmes blanches soumises à avoir des enfants pour inverser le changement démographique. C'est quoi cette phrase? Ah oui, ils ont inversé le slogan IVG. Ton corps, mon choix. Eux, ils disent ton corps, mon choix. Mais c'est qui ces dingues? Tout leur fantasme d'un état ethnique blanc repose sur la capacité de femmes blanches soumises à avoir des enfants pour inverser le changement démographique. On est en 2025. La chercheuse insiste sur la particularité des Groypers. Ce n'est pas un groupe avec une liste de membres ou une cellule avec une hiérarchie. Il n'y a pas d'uniforme comme les skinheads racistes. Tout est confus et fluide. C'est bien le problème. Nick Fuentes était condamné à la marche du conservatisme jusqu'à sa notabilisation par Tucker Carlson. Décidément, plein de gens très intéressants que je ne connais pas. Autre figure controversée de la droite qui l'a invité dans son émission fin octobre. Ça a l'air d'être un podcaster, youtubeur. Le nazisme est-il solution soluble dans le mouvement MAGA? Tucker Carlson l'a reçu avec une courtoisie stupéfiante pour qui se souvient de son ton vindicatif quelques mois plus tôt face à Ted Cruz, sénateur du Texas, défenseur de l'alliance traditionnelle avec Israël. L'État hébreu est devenu une ligne de fracture centrale au sein de la droite, supposé test de patriotisme. Ex-star de Fox News? Ok. Le passage de Fuentes chez Carlson a déclenché une vague de réactions chez des conservateurs classiques ou d'autres personnalités MAGA. Donald Trump s'est contenté de souligner la qualité et la liberté de Carlson en matière de choix de ses invités. Ok. Alors Carlson, moi je ne connais pas, mais Le Monde nous en parle. Le présentateur, donc présentateur de Fox News, est devenu le promoteur de la théorie raciste du grand remplacement, selon laquelle la majorité blanche chrétienne serait menacée d'extinction aux États-Unis par l'arrivée d'une nouvelle vague de migration. Après avoir quitté donc Fox News en 2023, Carlson a poursuivi son ancrage à l'extrême droite, tendance isolationniste et conspirationniste. Il a produit lui-même son émission d'entretien qu'Elon Musk a été ravi de relayer sur son réseau social X. On retrouve toujours un peu les mêmes. Hein. La mutation de cette frange extrémiste de la droite américaine s'accélère. Écrivain conservateur dorénavant installé à Budapest, Rod Dreher a accompagné Viktor Orban, le premier ministre hongrois, merci JK, lors de sa récente visite officielle à Washington. De son passage, il a rapporté un récit très remarqué. Là, 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 là. Bon, ça cause, ok. Bon, ces gens, ils causent, quoi. Je ne veux pas dire toutes leurs dingueries non plus. En tout cas, ça crée des divisions au sein de MAGA, quoi. Et c'est marrant parce que ouais, ils sont vraiment divisés. On a une dame qui s'appelle, je finis l'article avec ça, Laura Loomer, qui est une influenceuse conspirationniste très appréciée par Trump, et qui dit le Grand Old Party, les Républicains, le GOP, a un problème nazi. Passez le message, ils vont nous faire perdre les élections de mi-mandat. Donc vous avez des gens chez MAGA qui trouvent qu'il y a une frange extrémiste de MAGA qui va leur faire perdre les élections de mi-mandat, les élections de midterms. Ok. Bon, c'est intéressant. Quelqu'un disait, ah, pourquoi on parle de ça, c'est ennuyeux. Parce que c'est intéressant de voir que le camp du président est en train de se fissurer, quoi. Ok, comme ça on a l'info, on se la met dans un coin de la tête pour suivre la vie politique américaine de ces prochaines années. Peut-être qu'il serait intéressant de dire qu'en France, il y a des pros, ton corps, mon choix. Tu penses qu'il y a des gens en France qui pensent ça? Tu penses qu'il y a des gens qui sont... Chez les masculinistes? Oui, remarque, oui, t'as raison. Oui, ça existe, oui. Eh oui. Après, donc cet article du Monde, il cite des responsables du camp MAGA, vous l'avez vu, hein, qui s'accusent de plein de choses. En gros, il y a des gens à MAGA qui disent, ouais, il y a des néo-nazis, faut les kick, faut les virer, quoi. Ça n'empêche pas certains, je dis certains en France partagent ces idées. Petit moment de gloire pour Only Headshots, qui tente de faire des one-shots justement dans le chat, et qui vient d'écrire, c'est un article du Monde, de gauche et à charge, sans recul, et qui veut juste convaincre, quitte à tordre la réalité. Pour ceux qui se demandent si ce genre d'idées sont partagées en France, ils existent. Ils sont pas très nombreux en vrai, et parfois très bruyants, mais ils existent. Ok, maintenant on va raconter une belle histoire, enfin une histoire dure mais belle histoire. Et on va rendre hommage à une femme surtout. Voilà. Oubliez la pub Lidl elle est dans la page, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ok, on y va? Il y a Kinevano qui me dit que Arte sur YouTube a fait avec un YouTuber un beau reportage de 4 épisodes sur MAGA si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Ok, let's go. Let's go. Ah, on me dit que ce documentaire d'Arte est effectivement super. Ok. Ok, l'héroïne du RERC. 2h53, dis donc, et ce matin, on se fait plaisir, hein? Ok. Qui est cette femme? Qui est cette femme incroyable? Hop, la petite flèche se met à TikTok. Je vois des bravo madame dans le chat, vous avez bien raison, certains connaissent l'histoire. Oui, vous pouvez dire bravo madame. C'est juste incroyable ce qu'elle a fait. Elle a été remerciée, elle a été distinguée, elle a été décorée. C'est la dame que vous voyez ici. Qui volontairement, d'ailleurs, vous allez voir, pour recevoir sa décoration, s'est habillée en bleu, blanc, rouge. Volontairement, voilà, elle a mis une robe bleue, une petite veste blanche et des chaussures rouges. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas anodin. L'histoire, elle est incroyable. Saint-Ouen-sur-Seine, c'est dans les pages locales du Parisien. Le 16 octobre dernier, Marguerite avait secouru Jordana, brésilienne de 26 ans, victime d'une tentative de viol dans le RER. Mercredi, la directrice d'école, elle est directrice d'école, a reçu la médaille de la région pour son acte. Elle arrive vêtue d'une robe bleue, d'une veste blanche et de talons rouges. Une tenue en guise de symbole qui suscite une ovation des conseillers régionaux. J'aime mon pays, confie Marguerite. Je voulais signifier que la France, c'est l'acte que j'ai accompli. la fraternité. Elle est belle cette phrase. Mercredi, cette directrice d'école à Ablon-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, a reçu de Valérie Pécresse la médaille de la région pour son acte de bravoure au cours d'une soirée durant laquelle 20 autres franciliens ont été décorés. Qu'on donne la Légion d'honneur à cette femme en vrai. Vous allez voir la suite de l'histoire. La quinquagénaire a sauvé le 16 octobre Jordana, une brésilienne de 26 ans, dans une tentative de viol dans le RERC. Ce n'est pas évident à gérer au niveau des émotions, je suis très surprise, balbutiait-elle. Mercredi soir, le visage radieux, Marguerite est accompagnée de sa famille. Aucun n'a été étonné de son acte, c'est une femme qui n'a peur de rien, loue Yvon, son mari. Il faut dire que cette directrice d'école, pasteur également, pasteur je suppose qu'on est du côté des protestants, se distingue par son engagement au service des autres et l'officie au sein de plusieurs associations et dans un centre social auprès des sans-abri. Donnez 2 légions d'honneur à cette femme, s'il vous plaît. Un mois après, elle reste marquée par l'agression. Je n'avais jamais vu une telle rage, s'épanche Marguerite à propos de l'agresseur. L'homme l'a étranglée car elle criait, donc la jeune brésilienne. C'était très violent. Pourtant, dans la vidéo, son calme frappe, donc de Marguerite. J'ai parfois échangé avec des sans-abri alcoolisés ou drogués. Dit-elle, j'ai l'habitude d'accompagner les gens rejetés. Pour moi, agir ainsi s'explique aussi par une carence dans l'éducation et des sévices subis. Donc j'ai agi comme j'ai l'habitude de le faire, avec la conscience d'échanger avec une personne rejetée. Elle parle de l'agresseur. Reste qu'éloigner l'agresseur a pris du temps, même quand j'avais pris sous mon aile Jordana. Il s'approchait, relate-t-elle, j'avais délimité dans ma tête une zone à ne pas dépasser. Il l'a fait, donc je l'ai filmé, en fait, avec son téléphone. Je lui ai montré que si on ne respecte pas les règles, il y a des conséquences. Depuis, Marguerite a noué une amitié avec Jordana. Elle voulait venir ce soir, mais elle travaillait, rapporte-t-elle. Elle va mieux, mais elle souffre de cauchemars et ne fait plus confiance aux hommes. Marguerite complimente sa force, la force de la jeune femme. La tentative de viol touche au corps et à l'intime. Elle a eu le courage de prendre la parole. Pour Marguerite, son acte a été instinctif. Elle a même été étonnée d'apprendre que la plupart des usagers ne réagissaient pas. Comment peut-on rentrer chez soi sans avoir réagi, s'interroge-t-elle. Quant au fait d'agir face à un homme en tant que femme, Marguerite fait remarquer que du haut de son 1m58, elle l'a fait. Elle plaisante en évoquant ses racines haïtiennes et cubaines. Un beau mélange qui explique peut-être son caractère, dit-elle. Je n'ai pas froid aux yeux, je n'aime pas l'injustice, c'est important pour moi de servir mon pays, dit-elle. La France. Après avoir enlacé Marguerite, Valérie Pécresse, la présidente de la région, a salué les parcours de citoyens ordinaires qui accomplissent l'extraordinaire. On entend parfois que les Français se laisseraient gagner par le chacun pour soi. Ces médailles sont un beau démenti, dit-elle. Quant à la sécurité des femmes, Valérie Pécresse considère que ce serait une régression de leur dédier des wagons, puisqu'on a ce débat de consacrer ou non des wagons aux femmes dans les transports publics parisiens. Cela voudrait dire qu'on n'a pas su les protéger. Grâce à Marguerite, une femme a activé récemment le numéro dédié, le 3117, après avoir vu un homme se masturber devant elle, puisque c'est les scènes qu'on voit dans le métro, notamment parisien. Il y a aussi un débat que je compte tenir sur la vidéo algorithmique. On a testé le système pendant les Jeux, il faut que le Parlement accepte d'en parler. En attendant, elle remercie Marguerite au nom de toutes les femmes. Voilà. « Je n'en reviens pas que des élus tiennent à me saluer », souffle la directrice d'école. « Je n'aurais jamais pensé que les gens seraient aussi reconnaissants. » Voilà. Voilà. C'est un petit article pour une grande dame dont je voulais vous parler ce matin. Pour une fois que j'ai une belle histoire à vous raconter. Voilà. Une reine. Incroyable, hein? Incroyable. C'est beau. Et puis on va finir avec une dernière actu sur YouTube. Jusqu'où ira YouTube? Interagir. Hop, et on est sur du... Oh, on va mettre 3h à 2h59. Avec la petite flèche qui va bien, qu'il est beau le sommaire, qu'il est beau le sommaire. Et la flèche TikTok, bien sûr, le sommaire. Dark Art dans le chat me dit: bonjour Samuel, je suis conducteur de train sur Bordeaux. J'ai eu en 7 ans 4 tentatives de viol dans mon train avec des passagers qui ne réagissent pas. Merci pour ton témoignage. Lisons. L'instoppable montée en gamme de YouTube. Alors moi, c'est un univers que je connais mal parce que je suis pas YouTubeur et je consomme pas tant que ça des vidéos sur YouTube. Et je pense que vous le faites beaucoup plus que moi. La plateforme, c'est le constat de cet article des Échos, attire toujours plus de longs formats, faisant de l'ombre aux chaînes traditionnelles. Si son modèle ne permet pas encore de financer les super productions télévisées, cela ne semble qu'une question de point. En gros, YouTube va remplacer la télé, quoi. Hugo Décrypte, Moziman, avec qui j'ai passé quelques heures il n'y avait pas longtemps. Là. Gaspard G et bien sûr Squeezie, mardi, YouTube organisait son grand raout annuel, show, son et lumière, réunissant les fines fleurs de son écosystème au Théâtre National de l'Opéra Comique à Paris. Il y avait une teuf, quoi. Il y avait une teuf. Plus rare, la scène réunissait aussi les deux impératrices de la production audiovisuelle. Ah, pardon. Alexia Laroche-Joubert et, alors je ne sais pas qui est Justine Planchon. Et Justine Planchon, patronne de Banijay France et Media One Prod. À L2, elles produisent des programmes emblématiques comme Koh-Lanta, Miss France, Star Academy, C'est à vous, la franchise Miraculous ou encore la série documentaire à succès sur Orelsan et Squeezie. Une réunion des concurrents atypiques, donc il y avait des gens producteurs de télé et des youtubeurs. Mais pour chacune, pas question de laisser sa rivale truster la scène YouTube face à un parterre de créateurs de contenu, mais surtout d'annonceurs. Ah ben oui. Chacune de ces boîtes de production devenues de taille mondiale, les deux grosses boîtes de prod dont on vient de parler là, c'est que YouTube est maintenant incontournable et désormais aussi sur les types de formats longs qu'elles produisent, donc concurrence. La plateforme fait désormais partie du cycle de vie d'un produit, explique Justine Planchon. La saison 1 de Montre jamais ça à personne, série sur Orelsan, était ainsi en deuxième fenêtre de diffusion sur YouTube, après une première vie sur Amazon Prime. En tant que producteur, on cherche à créer des passerelles entre les deux mondes. Comprenez, les grosses boîtes de prod, télé, bon, elles savent, elles ont compris qu'il y a une partie des spectateurs, désormais qu'on ne pouvait toucher que sur YouTube. Il y a aussi une grosse partie des budgets publicitaires qui sont partis sur YouTube. Malinx le lynx. Autrement dit, écrit les Échos, tous les revenus sont bons à prendre à toutes les étapes de vie de produit. Allez, let's go! Il y a quelques années, ça se moquait de YouTube. Maintenant, c'est dans le plan de développement. D'autant que l'audience de la plateforme ne cesse de grossir. Selon Médiamétrie, YouTube a touché en septembre rien de moins que 43 millions de Français. Ils regardent ces contenus en moyenne 52 minutes par jour, ce qui est énorme. Cette fois, selon une étude de Comscore. Surtout, la plateforme s'est imposée sur les écrans de télévision. On regarde de plus en plus YouTube à la télé, où le temps de visionnage a augmenté de 31% en 2 ans, confortant le téléviseur comme deuxième écran de YouTube en France. Aux States, la télévision est déjà son premier support de visionnage. YouTube, aux States, est d'abord regardé sur la télé. Devant le mobile, YouTube est aussi le programme le plus regardé sur les téléviseurs connectés, devant toutes les autres chaînes. Il n'y a aucune raison que la France échappe à ce phénomène, analyse Alexia Laroche-Joubert. C'est marrant parce que vous donnez des gros acteurs. On ne spamme pas les messages only headshots. C'est un message, c'est one shot. Même si tu t'appelles only headshots, je vais te rebaptiser only one shot. Les messages, c'est one shot. On ne spamme pas ici. Vous êtes 3702 comptabilisés par Twitch. Vous êtes beaucoup plus actuellement en chat. Si tout le monde spamme ses messages, il ne faut pas être victime du syndrome du personnage principal. Alright? Donc, on voit que les grosses boîtes de prod, bon, ça y est, elles ont compris qu'il fallait s'y mettre, quoi. C'est en partie cette mutation des usages qui a favorisé l'émergence de longs formats. Hugo Décrypte, par exemple, qui a bâti sa popularité sur des décryptages compris entre 10 et 15 minutes, n'hésite plus à publier des vidéos d'interview d'1 à 2 heures maintenant. Le format long, c'est une relation dans le temps. A-t-il expliqué mardi, les youtubeurs comme la plateforme ont tout intérêt à développer le long format. Plus c'est long, plus il y a de pub. Voilà. Quant au divertissement, les stars de YouTube misent depuis plusieurs années sur des formats longs, parfois démesurés. Squeezie, suivi par près de 20 millions d'abonnés, a mis en ligne une vidéo de 1h39 où lui et 10 autres youtubeurs essaient de stopper un train. Je l'ai pas vu la vidéo. Avec leurs mains, du coup. Résultat, 13 millions de vues. Les exemples de production de qualité cinéma se multiplient mais restent pour l'heure circonscrits aux stars de la plateforme, ceux qui parviennent à attirer les plus gros sponsors. C'est le cas de Kaizen, le long métrage à succès d'Inox Tag retraçant son ascension de l'Everest que vous connaissez. Diffusé d'abord au cinéma avant d'exploser les compteurs sur YouTube, financé en partie par Nike, Orange et Deezer. Bah oui, it's gonna blue. En fait, Twitch a changé sa mode de comptabilité des viewers. Et en fait, quand tu n'écris pas, quand tu n'es pas actif, tu n'es plus compté parmi les viewers. Tu es là et je t'aime, mais Twitch ne te compte pas. Moi, je m'en fiche, tu fais comme tu veux. Pas obligé de participer. Cependant, la montée en puissance de YouTube est telle qu'on se demande combien de temps il faudra pour supplanter les diffuseurs. Kaizen ou le projet Terminal de Michou ont déjà bouclé des budgets à 7 chiffres. Quand j'observe l'envergure des concepts de créateurs, la qualité se rapproche du genre cinéma, les marques passent à la vitesse supérieure en termes de budget, je dis que rien n'est impossible. Dit Justine Rist, directrice générale de YouTube France. Merci pour les messages dans le chat, vous êtes trop mignons. Autrement dit, les économies des deux mondes ont commencé à converger. Et Alexia Laroche-Joubert le sait, YouTube sera chaque jour plus puissant. Un jour, ils viendront négocier pour diffuser Koh-Lanta car ils ont besoin de programmes longs et de marques premium. Pour cela, il faudra plus d'annonceurs prêts à payer davantage ou bien baisser les coûts de production audiovisuelle. Bon. Donc, le rapprochement. En fait, l'article, il nous dit qu'il y a un rapprochement du monde de la télé et de YouTube. Mais pas, c'est très intéressant, pas des télés et de YouTube. Mais plutôt des producteurs, parce que vous savez que la grosse partie des programmes que vous voyez à la télé, ils ne sont pas fabriqués par les télés, ils sont fabriqués par ce qu'on appelle des sociétés de production, des boîtes de production, tu vois. Et en fait, ces boîtes-là, elles sont en train de se dire, les grosses, on va commencer à bosser pour YouTube, les gars, parce qu'en fait, il y a du spectateur et il y a de la moula. Donc c'est très intéressant. Donc ce rapprochement télé-YouTube, c'est pas rapprochement chaîne et créateurs de contenu, c'est plutôt les créateurs de programmes pour la télé, ce qu'on appelle les boîtes de prod, qui en fait se rendent compte que voilà, il y a des choses à faire. Alors évidemment, comment dire, la motivation, elle est sur le programme, sur la qualité du programme, hein, pas du tout sur un aspect financier, hein. Bien sûr, évidemment. De plus en plus de grosses prods sur YouTube, dit Sugar, ce qui rend aussi le développement de petits créateurs de plus en plus difficile là-bas. YouTube n'est plus une plateforme où on peut se faire connaître, il faut déjà avoir une certaine notoriété, dis-tu. En fait, la question que je me pose, du coup, moi, c'est que si des acteurs traditionnels de la production de contenu pour la télé, alors, parfois qui font de la qualité, parfois qui font moins de qualité, il y a de tout, hein, commencent à s'intéresser à YouTube, est-ce que la qualité des programmes sur YouTube va pas finalement se dégrader avec des trucs qui ressemblent vachement à ce qu'on pouvait voir avant en télévision, quoi. C'est une question, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Mais c'est intéressant à suivre, quoi. Oui, effectivement, vous avez Aldé, vous avez l'ami Alderiat qui vient dimanche soir dans Simple, tout à fait. Merci les amis pour cette revue de presse de plaisir, de bonheur, de partage, d'échange, de raid de fou, tout ça. C'était un plaisir. Voilà. Moi, je suis en mode flemme en ce moment, je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire là ? J'ai un rendez-vous à 14h. Je fais le banquier pour demander des sous. Après, si je suis courageux mais j'en manque, je vais faire du sport. Et après, je vais vous lancer un stream cet après-midi de gaming, mais je sais absolument pas sur quoi, parce que je suis en mode flemme absolu. Je suis vraiment... c'est l'hiver, je ne pense qu'à quelque chose en ce moment, dormir et faire du gras. et bouffer du fromage et du chocolat. Je n'ai envie que de ça. Alors que je devrais faire du sport, faire attention. Je sais, vous, je sais pas comment vous vous faites. En ce moment, je suis. Voilà. Donc là, je pense que je vais me lancer une petite enquête en solo cul sur mon valo là pour parce que j'ai 1 heure à tuer avant mon rendez-vous avec la banque. Après, je suis supposé aller faire du sport. Supposé aller faire du sport. Et après, je vous retrouve en stream. Pas trop tard, parce qu'à 22h, je retrouve les enfants et je m'occupe des enfants tout le week-end. J'ai le bonheur d'avoir un week-end avec les enfants, parce que mon amoureuse part en week-end pro de travail. Là, elle part ce soir, et du coup, je m'occupe des deux chouchous là tout le week-end. Ça va être une... Donc, je vais pas beaucoup streamer ce week-end. On se retrouve juste dimanche soir. Pour Simplay. Voilà. Donc, il y aura juste un petit stream de gaming cet après-midi. Et après, c'est la famille. On va bien rigoler avec les garçons. Prenez soin de vous. TikTok, je vous fais des bisous. Twitch, on va faire un raid. Restez, bougez pas. TikTok, bonne fin de semaine. Bon week-end. Nous, sur TikTok, on se retrouve lundi matin pour la revue de presse. Et si vous voulez me retrouver sur Twitch, c'est tout après-midi en live. Et c'est dimanche soir avec Simplay. On découvre un jeu de fou, Skyrim, avec l'ami Aldé. Je vous quitte. C'était un beau live ce matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Les Twitchos. Il y a des gens qui disent ça, non? Twitchos. On va aller voir qui est en live. On va faire un raid. On a reçu un très beau raid d'Elydia tout à l'heure. Ça fait bien plaisir. Qui est en live? Je regarde. Ouais. Ouais, il y a du monde, hein. C'est vrai que les stats ont baissé. C'est vrai que les chiffres sont pas les mêmes qu'avant. Vous avez raison. Vous avez raison. Je regarde. Le concept du live du dimanche, c'est la découverte d'un jeu vidéo, un nouveau jeu vidéo chaque dimanche par quelqu'un passionné par ce jeu. C'est pour booster un peu ma culture générale du jeu vidéo. C'est stretchy, on est à la 65, 66e émission, je sais plus. Et parfois, je me mets à jouer à ces jeux. C'est ça me plaît, parce que ça me plaît, parce que je m'appelle Sam, et ça plaît. Et il y aura Aldé. Il y aura Aldé derrière toi. Qu'est-ce qui fait le chouchou là? Et je l'aime bien lui aussi. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Ah, il y a le... Ah ouais aussi. Eh, les amis, on a reçu un raid génial d'Elydia tout à l'heure. On resterait pas sur du Valo? Attends quoi? Attendez quoi? Attendez, non, on va pas rester sur du valo. Quelqu'un me dit que mon invité de dimanche soir, Alderiat, est en live. Voilà. Voilà. Eh ben, on va le raid. Ha ha! Comme ça, vous faites sa connaissance. Et puis, nous, on le retrouve dimanche soir. Et c'est pour le remercier de venir. Il est sur Kingdom Come Deliverance 2. Je crois qu'on avait joué un petit peu à ce jeu vite fait, d'ailleurs. C'est parti. Les amis, des bisous. On se retrouve tout à l'heure, pour 17h, je pense, pour du gaming. Allez, on va voir Aldé. Aldé, c'est un acteur historique du Twitch français. Il est là depuis longtemps. Des bisous. C'est parti. À tout à l'heure. Ciao. Merci encore pour ce matin. C'était bien cool.
Et on voit un peu la trame du DLC et ce que ça implique, tout en massacrant des gens au hasard, bien évidemment.